Europe 1.
Nous sommes le mercredi 13 mars, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, chacun a tenu son rôle. L'Assemblée nationale a approuvé pour la forme le soutien à l'Ukraine. L'exécutif a tapé sur un rassemblement national qu'il juge pro-russe. Marine Le Pen, elle s'est offusquée. Mais que contient ce fameux texte adopté hier par l'Assemblée, peut-être aujourd'hui par le Sénat? Réponse dans un instant. Dans l'actualité également, 4 mois après le meurtre du jeune Thomas, la violence de retour à Romans-sur-Isère. C'est la maire de la ville qui le dit. Europe 1 est allé le constater sur le terrain. Plus 1 euro pour l'enseignement privé catholique, c'est la demande des syndicats de l'enseignement public à l'État. Près de 2 millions d'élèves en dépendent pourtant. Et puis on parlera de la SNCF. Attention, les petits prix partent en premier. La compagnie vient d'ouvrir les réservations de trains pour l'été. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Hier, à la tribune de l'Assemblée, il y a eu les Vive l'Ukraine de Gabriel Attal. Le RN qui s'abstient mais se défend d'être pro-russe. Le non catégorique des insoumis face à une dissuasion active vis-à-vis de Moscou. Et enfin, le résultat du scrutin.
Pour l'adoption, 372 contre 99. Donc l'Assemblée nationale a approuvé la déclaration du gouvernement.
Le soutien à l'Ukraine largement approuvé par les députés, aux sénateurs tout à l'heure de se prononcer sur ce texte signé par Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky. Mais à quoi nous engage-t-il, Maïalène Trémollet?
C'est un accord conclu pour une durée de 10 ans, en vigueur uniquement tant que l'Ukraine demeure en dehors de l'OTAN. L'objectif du texte, c'est d'intensifier une coopération bilatérale sur le long terme, d'abord par une aide financière de 3 milliards d'euros de soutien sur l'année 2024, mais aussi par un renforcement des aides militaires et des engagements sur l'envoi de matériel, de munitions, d'une assistance humanitaire. L'accord prévoit encore des sanctions sévères contre plusieurs secteurs de l'économie russe si le conflit se poursuit. En revanche, pas une ligne sur un potentiel envoi de troupes au sol, malgré les propos récents d'Emmanuel Macron. En clair, ce qui pose un problème, c'est surtout l'engagement, écrit noir sur blanc dans le texte, de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Depuis le début du conflit en 2022, l'aide militaire de la France à l'Ukraine se chiffre à 3,8 milliards d'euros.
Maïalène Trémollet et Emmanuel Macron sera l'invité des JT de 20h de France 2 et de TF1 demain soir pour évoquer la guerre en Ukraine.
La calmie n'aura duré que 4 mois. Romans-sur-Isère, la maire de la ville alerte sur le retour de la violence dans le quartier de la Monnaie.
D'où sont originaires la plupart des 11 personnes interpellées ce lundi, 4 mois après la mort du jeune Thomas à Crépol, et en plus des 9 déjà mis en examen. Marie-Hélène Toraval l'assure, les bandes sont en train de se reformer. Le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, l'a rencontré avec des riverains.
Depuis le drame de Crépol, il y avait eu une certaine accalmie dans le quartier. Mais le week-end dernier, la violence a repris avec une multitude d'incidents, explique la maire de la ville, Marie-Hélène Toraval.
Nous avons eu des délits de fuite, des refus d'obtempérer, nous avons eu des rodéos, aussi l'incendie d'une agence bancaire dimanche.
Ces habitants sont justement venus voir dépiter l'agence bancaire incendiée.
C'est terrible, hein ? Il n'y a pas de mots pour le dire. Ça me dégoûte, moi. Il n'y aura plus rien dans le quartier.
C'est pire qu'avant, hein, moi je vous le dis. Hein. Toute la derrière, quel bordel la nuit. On les voit pas, hein. Ils sont masqués. Hein. L'autre fois, il y avait des voitures cramées là.
Des jeunes devenus incontrôlables, juge Samir.
C'est comme si tu parlais à un mur, c'est pareil. Ils sont perdus, ces gamins. Ils écoutent pas leurs parents. Vous croyez qu'ils vont écouter qui, sérieux?
Dylan, 24 ans, fait partie de ces jeunes et il est très remonté contre Marie-Hélène Toraval.
La mère, en fait, elle arrête pas de nous insulter, critiquer, nous rabaisser, comme si on était des sales vermines, alors qu'il y a des années en arrière, on parlait tranquillement avec elle.
Atmosphère d'hostilité réciproque, donc, dans un quartier où la mère se désespère de voir arriver les renforts de police pérennes qu'elle réclame depuis novembre. Roman, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et concernant la lutte anti-drogue, la justice appelée par son ministre à soutenir la police, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti demande au parquet une meilleure coordination avec les forces de l'ordre pour suivre le rythme des opérations Place Nette sur les points de deal. Accès interdit aux étudiants juifs considérés sionistes par des élèves pro-palestiniens. Le slogan « Palestine vaincra » entonné hier à Sciences Po Paris, où un amphithéâtre a été bloqué par des manifestants, rebaptisé Gaza, tapissé de drapeaux palestiniens, 4 heures de blocus, puis arrivée sur place de la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. Elle dénonce une situation intolérable. L'Union des étudiants juifs de France demande des sanctions.
Et son secrétaire national, Yosef Murciano, sera l'invité d'Europe 1 dans quelques instants. C'est une bataille quasiment vieille comme l'école publique contre privé et privé catholique. Le premier veut désormais couper les vivres au second.
Les subventions de l'État au privé, c'est 13 milliards d'euros par an. C'est trop pour cette alliance historique de syndicats, de fédérations de parents d'élèves et d'associations de l'enseignement public. Leur argument, la lutte contre les inégalités, disent-elles. Réaction de Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique.
S'il n'y a plus de financement public pour l'école privée, ça sera réservé à une minorité de gens qui ont des grands moyens. Donc ça va à l'encontre de ce qu'ils prônent. Un peu curieux comme raisonnement. En disant ça, ils ne veulent pas que les familles puissent réellement choisir. Mais on est dans une idéologie là. On n'est pas dans un raisonnement qui veut favoriser cette liberté de choix des familles. Et si tous les enfants que nous avons aujourd'hui dans nos établissements devaient rejoindre l'école publique, je ne sais pas où l'État et les collectivités locales trouveraient les milliards nécessaires pour les scolariser. En ce qui concerne les contrôles financiers, la Cour des comptes a souligné effectivement qu'il y avait peu de contrôles qui ne sont pas de notre fait, mais bien du fait de la puissance publique qui ne remplit pas sa mission. Nous sommes tout à fait favorables à ce qu'il y ait des contrôles financiers de nos établissements, c'est-à-dire vérifier que les budgets sont conformes. Après, que certains veulent nos disparitions, c'est pas nouveau. Ça monte un peu en puissance parce que c'est un sujet facile, mais je suis pas certain aujourd'hui que l'opinion publique adhère à ce genre d'attaque, si vous voulez, quand on voit toutes les familles qui nous font confiance, quoi.
Les propos recueillis par Louis Salé pour Europe 1.
Aux États-Unis, c'est officiel, Joe Biden et Donald Trump s'affronteront au mois de novembre pour briguer la présidence américaine.
À l'issue d'une nouvelle journée de primaire, les deux candidats sont assurés d'obtenir la nomination de leur parti. Et voilà la vraie campagne qui commence à Viva Fried.
Oui, hein, il n'y avait plus beaucoup de suspense, mais Joe Biden a été le premier à arriver au but et à obtenir 1968 délégués qui voteront pour lui lors de la convention de nomination. Donald Trump a dû attendre un peu plus, mais lui aussi a engrangé suffisamment de votes. Il a immédiatement publié un message de victoire sur le réseau social X.
C'est votre président préféré qui vous parle en ce jour de grande victoire. Maintenant, nous devons nous remettre au travail parce que nous avons le pire président de l'histoire et il doit être battu.
Avantage pour l'instant à Donald Trump qui peut compter sur une base fidèle, prête à le suivre quelles que soient ses attitudes et ses déboires judiciaires. Côté Biden, c'est plus compliqué. Il doit faire face à un désamour de la part de ceux qui l'ont porté au pouvoir en 2020 à cause de la crise économique et de la guerre à Gaza. Mais l'enjeu pour les deux candidats, c'est aussi de convaincre au-delà de leur propre camp. Et là, c'est plus compliqué pour Donald Trump, dont les excès effrayent les modérés. Mais 8 mois de campagne, c'est très long et tout peut encore arriver, d'autant que les candidats sont les plus âgés de l'histoire des présidentielles américaines.
Ah, Viva Fried pour Europe 1. Et puis on vient de l'apprendre, l'amiral Philippe de Gaulle vient de nous quitter, mort à l'âge de 102 ans. On y reviendra évidemment dans nos prochains journaux.
Il est 7h07, 13 mars, et on a déjà la tête en vacances pour certains. Allez-vous pour réserver tranquillement vos billets de train pour cet été?
C'est ouvert depuis 6h, mais Sudrail, le syndicat, appelle les employés chargés d'enregistrer les réservations à la grève. Dans tous les cas, mieux vaut être les premiers pour profiter des petits prix, Aurélien Fleureau.
Le record de l'été 2023 sera très certainement battu. 30 millions de billets vendus pour juillet et août dernier en prenant en compte les destinations européennes. Et cette année, la SNCF va proposer 400 000 places supplémentaires. Il a fallu faire de la dentelle, explique-t-on en interne. Il n'y a pas plus de TGV disponibles, mais les rames duplex à 2 étages et les dispositifs à double rame ont été privilégiés sur les liaisons les plus prisées. Résultat, quelques centaines de sièges gagnés par trajet, surtout en direction de Bordeaux et de Marseille. Et là, pas de recette miracle, il ne faudra pas traîner pour bénéficier des tarifs les plus bas, rappelle Bruno Gazo, président de la FNOT, qui représente les usagers des transports.
Les prix augmentent au fur et à mesure que les trains se remplissent et qu'on se rapproche du départ. Sur les liaisons les plus demandées, les prix peuvent augmenter de 20, 30, 50%.
Un mécanisme que les voyageurs ont bien compris, les Français anticipent de plus en plus leurs achats. SNCF Connect attend plus d'un million de ventes aujourd'hui, sans oublier les plateformes concurrentes, Trainline, Combo, Tic Tac Trip ou encore Omio.
Aurélien Fleureau pour Europe 1. Et puis un petit mot de football pour vous dire qu'Arsenal et Barcelone se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, de revenant dans la compétition.
Oui, Barcelone qui était plus... Arsenal qui s'était plus qualifié depuis 14 ans. Toute notre jeunesse, mon cher Victor, n'est-ce pas?
La vôtre.
Merci, oui, la mienne, exactement. Vous avez raison. Merci Victor pour gester votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
On va revenir sur le rapport de la Cour des comptes et cette alarme lancée par le premier président Pierre Moscovici, très inquiet de l'état de nos finances publiques. On se demandera avec Nicolas Bouzou qui détient la dette française. Tiens, ce sera juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, le secrétaire national de l'Union président des étudiants juifs de France, Yosef Murciano. On parlera avec lui de ce qui s'est passé à Sciences Po hier.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France.
Bonjour Yosef Murciano.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Est-ce qu'on peut étudier sereinement à Sciences Po aujourd'hui quand on est juif? Hier, une soixantaine d'étudiants ont bloqué le grand amphithéâtre de l'école en soutien à la cause palestinienne, amphi qui a été rebaptisé Gaza. Des keffiyés palestiniens ont été accrochés à l'entrée et on a pu entendre ce genre de slogan. Écoutez.
Gaza, Gaza, Sciences Po est avec toi. Gaza, Gaza, Sciences Po est avec toi.
Alors soutien au peuple palestinien à Gaza, pourquoi pas, mais voilà qu'une étudiante s'est tout de même entendue dire « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste ». Et oui, parce que ces étudiants, à l'entrée, demandaient le nom des gens, filtraient et assimilaient leur nom donc à la politique du gouvernement israélien. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po, Yosef Murciano?
Deux choses. Antisémitisme d'un côté, totalitarisme de l'autre. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Quand on refuse l'entrée à un amphithéâtre, à un étudiant, à une étudiante, en disant « c'est une sioniste », sans même connaître ses opinions politiques, sans même connaître ce qu'elle a fait hier soir ou ce qu'elle a mangé au petit-déj.
Donc c'est sur la base de son nom de famille qu'on a décrété qu'elle était sioniste, cette fameuse étudiante.
Ou alors parce que des camarades l'ont reconnue, parce qu'elle est connue, parce que c'est une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France, donc forcément juive, donc forcément sioniste. C'est une essentialisation d'une juive, c'est de l'antisémitisme. Totalitarisme après, parce que c'est la non-volonté du débat, le fait de ne pas vouloir entendre de contradictions qui font que ces personnes la laissent à la porte. On essentialise et on totalitarise. Voilà ce qui s'est passé à Sciences Po hier.
Alors, on entendra dans le journal de 8h le reportage de Wilfried de Villers qui s'est rendu à Sciences Po hier. Mais pour vous raconter les coulisses, il a eu beaucoup de mal à recueillir les témoignages d'étudiants juifs après ce qui s'est passé. Comme s'ils avaient peur de parler, de raconter ce qu'ils vivent au quotidien, Yosef Murciano. Est-ce que ça vous surprend?
Non, ça ne me surprend pas. Il se trouve que en septembre, on a sorti un sondage. Juste avant le 7 octobre, donc on sort un sondage qui dit qu'un étudiant sur trois a choisi, un étudiant juif sur trois a choisi son parcours universitaire en fonction de la peur de l'antisémitisme, qui a décidé de ne pas aller dans telle ou telle université parce qu'il y avait des risques d'antisémitisme, parce qu'il a entendu ses grands frères, les amis de ses grands frères.
Parce que quand on est juif, on sait qu'il y a des universités, il ne faut pas aller.
Il y a des universités où il ne faut pas aller. Ce matin, moi je me suis réveillé avec sur mon téléphone une photo très sympathique d'un dessin sur les toilettes de Paris 8, un dessin caricaturé très sympathique d'un terroriste de la brigade Al-Qassam avec le keffiyeh, le bandeau, la mitraillette dans la main, qui sourit avec écrit « Soutenons toute forme de résistance ».
Donc brigade Al-Qassam, c'est la branche armée du Hamas. Hein,
voilà,
je précise,
c'est
hein.
Ça. Apologie du terrorisme dans les universités. Forcément, quand on a un étudiant juif et qu'on entend ça, en fait, on a peur et on n'a pas envie d'aller à Paris 8 en l'occurrence. À Sciences Po également. Moi, je me dis, j'ai 17 ans là, je me retrouve devant Parcoursup pour faire mes choix. En effet, je réfléchis à deux fois.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a le critère de l'orientation, de ce qu'on veut faire. Mais il faut en plus, quand on est juif, avoir en tête cette idée qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller. Ça paraît fou. Il y a beaucoup d'établissements, on ne va peut-être pas toutes les pointer du doigt, mais enfin, peut-être, certains, vous citez Paris 8, il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles où c'est délicat de se présenter quand on est juif.
Il y a l'université du Mirail à Toulouse, l'université à Lyon. Enfin, il y a des universités qui résonnent à mes oreilles et à nos oreilles d'étudiants juifs depuis le début de nos études, comme étant des lieux où c'est pas super, on n'est pas super bien accueilli, etc.
Parce que ça veut dire quoi, pas être bien accueilli concrètement, Yosef Murciano?
En fait, le matin, quand on arrive à l'université et qu'on croise dans les couloirs ce genre de dessin, des soutiens affichés à la résistance palestinienne, quelle que soit la forme qu'elle aura choisie, donc ça veut dire le meurtre des bébés, le viol des femmes, etc., comme ce qui s'est passé le 7 octobre, ça fait froid dans le dos, ça donne pas envie de continuer. On se demande forcément qui a collé ces affiches, qui a fait ces dessins, on ne sait plus où s'asseoir. D'ailleurs, il y a des étudiants juifs qui nous remontent que depuis le 7 octobre, en fait, on ne veut plus faire d'exposés avec soi, que les camarades fuient un peu,
qu'on s'assoit sur, dans la classe.
Évidemment, il y a une ostracisation. On s'assoit dans un amphithéâtre et puis il y a la personne qui à côté se lève et part. En réalité, comme si c'était contagieux. Voilà où on en est. Moi, ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est les Juifs de France ne sont pas victimes. Faut que tout le monde le comprenne. C'est le message qu'on a voulu faire passer hier, quand on était avec...
Pas victime, en l'occurrence, si. Vous êtes une victime
de l'antisémitisme, mais pas essentialisé en termes de victime. Il y a
Et pas responsable de la politique israélienne.
Évidemment, quand on est tenu comptable de la politique israélienne parce qu'on est juif, il y a une forme d'antisémitisme et il faut s'arrêter là, en fait, dès le début, quand on tient qu'on désigne coupable un juif sous prétexte qu'il est juif. C'est déjà de l'antisémitisme, mais il faut s'arrêter là.
Yosef Murciano, l'Union des étudiants juifs de France, dont vous êtes le secrétaire national, appelle à des sanctions exemplaires contre les étudiants qui ont procédé à ces filtrages. Que vous a répondu la direction de Sciences Po ? Est-ce qu'elle vous a répondu d'abord ?
C'est très compliqué avec la direction de Sciences Po, de fait, parce que y a à la fois un lien plutôt solide entre la section de l'UEJF locale et la direction de Sciences Po. Il y a des choses qui ont été faites par Sciences Po dès le 8 octobre qui rassurent, qui font du bien aux étudiants juifs, l'organisation d'une commémoration pour la mort de Omri Ram. Omri Ram est un ancien étudiant de Sciences Po
qui est
mort le 7 octobre au Festival Nova, qui est un étudiant de Sciences Po. Voilà,
mais pour la
alumni.
Sécurité du quotidien, et ne serait-ce que pour les événements d'hier, la direction de Sciences Po a produit un communiqué
Exactement, le mot manquant d'antisémitisme, et on se demande où il est. Et forcément, quand on voit cette baisse-là du niveau de vigilance, parce que c'est ça qui s'est passé au lendemain du 7 octobre, il y a eu une vague d'antisémitisme, ça faisait la une des médias, tout le monde en parlait, etc. À ce moment-là, évidemment, c'est politique, c'est logique. Toutes les directions, les administrations d'université prenaient des mesures concrètes, solides, etc., qui rassuraient les étudiants juifs.
Et donc là,
sauf que la mobilisation pro-palestinienne s'accentue petit à petit, qu'elle se radicalise. Comme je vous le disais, elle n'accepte pas la contradiction. Moi, j'aimerais bien que dans les universités, ce qui se passe, c'est qu'il y ait une mobilisation pro-palestinienne qui accepte d'entendre une parole dissonante, une autre parole, etc., et qui avance. J'aimerais bien, moi je ne suis pas contre le fait que l'amphithéâtre Boutmi soit un haut lieu de la mobilisation pour le peuple.
C'est l'amphi qui a été bloqué hier.
Exactement. Ouais. Pour le peuple palestinien, j'ai aucun problème avec ça, je pense que c'est très bien. Le problème, c'est quand on interdit aux juifs de rentrer dans les amphithéâtres, quand on les assimile à Netanyahou parce qu'ils sont juifs, et qu'on les pointe du doigt, qu'on se lève en amphi pour pas s'asseoir à côté d'eux.
Merci Yosef Murciano. Le secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France était l'invité d'Europe 1 Matin. Merci. Bonne journée à vous.
Il est 7h20 sur Europe 1, l'édito éco. 7h-9h, Europe 1 Matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Alors, la Cour des comptes, Nicolas, a rendu son rapport annuel hier. Son premier président Pierre Moscovici dénonce une situation alarmante des finances publiques. Bon, la dette publique pose-t-elle un problème de souveraineté à la France, Nicolas ?
Oui, d'ailleurs, quand le général de Gaulle, en son temps, évoquait les finances publiques, il convoquait la notion de souveraineté. En 1959, lors d'une conférence de presse dans laquelle il se félicite que le gouvernement ait commencé à diminuer la dette publique, il expose les choses ainsi, je cite, ouvrez les guillemets. C'est grâce à cette politique que dans le domaine international, nous pouvons discuter sur tous les sujets sans que qui que ce soit n'ait aucune prise sur nous. Fermez les guillemets. Ce que dit le général de Gaulle, c'est très actuel. Hein. C'est qu'un pays endetté dépend de ses créanciers. Il perd donc de son autonomie, surtout quand ses créanciers sont étrangers.
Alors justement, qui détient la dette publique française, Nicolas ?
Ouais, une grosse moitié est détenue par des banques françaises, des compagnies d'assurance françaises et puis par la Banque de France. Ça veut dire que les Français, les ménages, détiennent indirectement, via leurs banques et leurs assurances vie, environ la moitié de la dette publique. C'est significatif, mais c'est pas énorme. Les Japonais, par exemple, détiennent 90%, quasiment la totalité de leur dette publique. Alors, l'autre moitié est détenue par des étrangers. Pour l'essentiel, ce sont des grandes compagnies financières, des grandes
fonds de pension, ouais.
Exactement, des compagnies d'assurance, mais aussi des fonds souverains, c'est-à-dire des fonds qui appartiennent à des États. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié de cette dette détenue par des étrangers l'est par des créanciers non européens, en particulier des Chinois, des Saoudiens, des Émiratis, parce que ce sont des pays qui épargnent beaucoup. Concrètement, je pourrais vous présenter les choses ainsi. Ce sont de futurs retraités saoudiens qui financent les salaires des 60 000 fonctionnaires embauchés en plus en 2023.
Alors donc, nous sommes à moitié détenteurs de notre dette, mais aussi à moitié détenus. Ça pose un problème ?
Oui, un double problème. Un problème économique d'abord, parce qu'en cas de crise, les institutions financières vendent en priorité les titres des pays étrangers. Concrètement, ça veut dire que si demain les banques chinoises ont besoin d'argent, elles vendront des titres de la dette française avant les titres de la dette chinoise. Mais ça pose aussi un problème géopolitique. Notre dette, je vous le disais, est en partie détenue par des fonds souverains, c'est-à-dire des fonds d'État comme la Chine ou le Qatar, avec lesquels nous pouvons avoir des divergences géopolitiques. Qu'ils soient nos créanciers, donne à ces pays un atout, un rapport de force, un attribut de puissance. Et c'était le sens de la remarque du général de Gaulle. Diminuer la dette publique, c'est-à-dire dans le cas de la France, abandonner cette fuite en avant dans la dépense publique pour résoudre tous nos problèmes, ce n'est pas qu'une question financière, c'est aussi une question d'indépendance nationale.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, à demain.
Europe 1.
L'actu sur Europe 1, c'est évidemment tous les matins, mais c'est également à la mi-journée avec Céline Géraud et ses invités.
Europe 1, 13h, c'est une heure d'infos, de débats, d'analyses et de témoignages. Et pour débattre tout à l'heure aux côtés de Céline Géraud, Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, et Paul Melun, essayiste. Pour participer, vous pouvez laisser vos coordonnées en appelant dès maintenant le 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé.
Bon réveil avec Europe 1. Nous sommes le mercredi 13 mars, 7h23. Le journal permanent, Victor Porcher.
Saluons la mémoire d'un père formidable et d'un grand français. Les mots sur les réseaux sociaux du fils de l'amiral Philippe de Gaulle, dont on a appris la mort à l'âge de 102 ans. Il était le fils aîné du général de Gaulle, toujours sur les réseaux sociaux. Le maire de Vichy salue quant à lui son charisme, sa ressemblance troublante avec son père et sa vision de la France. Dans l'actualité également, le sinistre décompte se poursuit dans le sud-est après les intempéries. Le corps sans vie d'une fillette de 4 ans retrouvée dans le Gard, un autre d'un homme localisé mais pas encore récupéré en Ardèche. Cela porterait le bilan à 7 morts. Et puis bis repetita aux États-Unis pour 2024. Joe Biden et Donald Trump sont assurés d'être les candidats de leur camp à la prochaine présidentielle, et ce, après des résultats de primaire cette nuit.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Le 13 mars 2010 mourait l'un de nos grands chanteurs français, Jean Ferrat. Jean Ferrat, qui vivait depuis 40 ans dans un petit village d'Ardèche, Entraigue, sur Volane, où lors d'Autriche, eh bien, se sont tenues ses obsèques quelques jours plus tard.
Oui, Entraigue, où Jean Ferrat vivait une vie de villageois et pas de star de la chanson. Entraigue, où il avait ses habitudes, au café, sur la place, au milieu des montagnes de l'Ardèche. Et c'est sur cette place de village que des centaines de fans se rassemblent à la mort du chanteur.
Ça nous fait du bien d'être là, parce que la passion, écoute, tu nous as tellement donné que c'était le minimum qu'on pouvait te rendre. Le plus dur qu'il nous reste à faire, c'est apprendre à vivre sans toi.
Sur une petite estrade montée à la hâte sur la place du village pour une cérémonie d'hommage en 2010, il y a aussi Isabelle Aubray qui chante Ferrat depuis 40 ans.
Oui, c'est beau, c'est beau. La vie.
C'est vrai que c'était difficile d'aller jusqu'au bout de la chanson. C'était émouvant de les entendre dire « c'est beau la vie » alors que tout s'était déchiré comme nous.
Jean Ferrat est un peu le quatrième mousquetaire aux côtés de Ferré, Brel, Brassens. Il voit sa carrière décoller dans les années 60. Ferrat, c'est cette moustache légendaire, un engagement communiste et des succès sur un registre tantôt sentimental.
Aimer à perdre la raison.
Ou un registre engagé avec Ma France, par exemple.
De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, Ma France.
Jean Ferrat s'exprime sur Europe 1 en 1985 au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
Jean Ferrat, c'est vraiment votre nom ?
Ah non, pas du tout. Non, c'est un pseudonyme que j'ai trouvé après bien des recherches sur la carte de France. Il y a Saint-Jean, Cap, Ferrat, voilà. D'abord, je m'appelais Jean Laroche. On m'a dit, il y a un Laroche qui existe. Et alors, les impresarios me disaient, mon petit gars, attention, il faut prendre un nom le plus court possible, parce que plus t'es court sur une affiche, et plus c'est gros, plus on te voit.
S'il n'avait pas été chanteur, Ferrat racontait aussi sur Europe 1 qu'il aurait voulu être chef d'orchestre ou champion du monde de boxe.
Merci, Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin. Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre un magnifique week-end dans l'un des casinos hôtels Partouche. Alors au programme de ce week-end avec la personne de votre choix, vous pourrez aller à Forges-les-Eaux, à Contrexéville, à Aix-en-Provence, à Hyères, à Divonne-les-Bains ou au Havre. C'est vous qui choisissez. En tout cas, une chose est sûre, sur place, il y aura des animations, 30 euros de crédit de jeu pour vous, un repas au restaurant et 2 nuits à l'hôtel du casino. Toutes les infos pour faire le bon choix sur le www.partouche.com.
La question, la voici, qui qui fut l'une des grandes interprètes de Jean Ferrat. Était-ce Juliette Gréco ou bien Isabelle Aubray?
Pour tenter votre chance, vous envoyez ce matin Casino au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi d'avance. Bonne chance. Je vous rappelle qu'à 8h10, Sébastien Chenu sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député RN du Nord, vice-président de l'Assemblée, hier au Palais Bourbon, justement dans le camp d'Emmanuel Macron, c'était haro sur le RN, accusé de soumission au Kremlin. Autrement dit, le clivage poussé à l'extrême. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk et Sébastien Chenu dans 3 quarts d'heure.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Son père l'appelait mon cher vieux garçon, un nom qui résonne avec l'histoire de France. Philippe de Gaulle, le fils aîné de Charles de Gaulle, est décédé cette nuit à 102 ans. On en parle dans un instant. L'État doit couper les vivres à l'enseignement privé. C'est le sens de l'appel de plusieurs syndicats d'enseignants du public, mais aussi de parents d'élèves, alors que 2 millions d'enfants sont scolarisés dans le privé catholique. Et puis ce nouveau coup porté au narcotrafic marseillais. 13 personnes interpellées hier, soupçonnées d'appartenance à la fameuse DZ Mafia, l'un des gangs les plus puissants et violents de la cité phocéenne. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavant. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et d'abord, vous venez de le dire, on a appris ce matin la mort de l'amiral Philippe de Gaulle, fils aîné du général de Gaulle. Décédé cette nuit à 102 ans, Philippe de Gaulle était comme son père engagé dans l'armée et il s'est battu lui aussi pour la France libre dans les forces navales dès 1940. Il fut aussi sénateur de Paris jusqu'en 2004.
Alors le fils de Philippe de Gaulle, Pierre de Gaulle, appelle à saluer la mémoire d'un père formidable et d'un grand français sur le réseau social X. Venons-en à cette question à présent. La guerre entre l'enseignement public et privé est-elle relancée?
Hier, les principaux syndicats d'enseignants du public, mais aussi des parents d'élèves, ont demandé une nouvelle fois à l'État d'arrêter de subventionner le privé pour que l'argent public aille à l'école publique, comme il l'avait déjà formulé en janvier dernier dans une tribune parue dans les colonnes du Monde. Louis Salé, c'est donc un véritable front commun contre le privé catholique sous contrat.
C'est une union historique contre le privé. En cause, le fait que de plus en plus de familles favorisées se tournent vers l'enseignement catholique qui scolarise 3 fois moins d'élèves boursiers que dans le public. Frédéric Marchand, secrétaire général du syndicat UNSA Éducation.
La priorité de la nation pour son école, ça doit être de donner la priorité à l'école publique et qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer sans rien dire à entretenir une forme de séparatisme scolaire qui devient dangereux pour notre société.
Des arguments injustes pour l'enseignement catholique qui a besoin de cet argent pour accueillir plus de familles modestes et rendre un service public d'éducation. Gilles Demarquet préside l'appel Association des parents d'élèves du privé.
Il y a 1,5 million de parents en France qui font le choix de l'enseignement catholique et de l'enseignement privé sous contrat. Je pense que c'est pas pour rien. Et cette liberté de choix, pour qu'elle puisse s'exercer, il faut qu'il y ait les moyens de l'exercer.
Mais cette fronde anti-privé n'est pas prête de s'arrêter. Un rapport parlementaire publié début avril a prévu de s'attaquer au contrôle soi-disant insuffisant de l'État sur les financements accordés à l'enseignement catholique.
Louis Salé pour Europe 1. Demain soir, 20h, Emmanuel Macron sera en direct sur TF1 et France 2. Le président de la République reviendra sur le vote en faveur du plan de soutien à l'Ukraine hier à l'Assemblée nationale. Accord qui prévoit une aide militaire sur 10 ans et l'appui de la candidature de Kiev pour entrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est le Sénat qui doit aussi voter symboliquement pour ce rapport.
7h34 sur Europe 1. Ils ont passé la nuit en garde à vue. 13 membres présumés de la DZ Mafia ont été interpellés hier.
La DZ Mafia, l'un des 2 gangs de narcotrafiquants les plus puissants de Marseille. Âgés entre 15 et 25 ans, les interpellés sont soupçonnés d'avoir participé à une tentative de meurtre l'an dernier en Espagne qui avait visé Stéphane Burgat, un membre du milieu, comme on dit, qui était en exil en Catalogne.
Le commando avait visé un truand très connu, notamment autour d'un règlement de compte dans cette même station balnéaire d'Empuria Brava, rôle désormais inversé. C'est lui la cible ce jour-là sur la Costa Brava et il est touché de plusieurs balles au niveau du bras et du thorax. Il survit à ses blessures, tente de se faire soigner en France tout en esquivant les enquêteurs qui tiennent pourtant une piste pour traquer ses agresseurs et sur la base d'images de vidéosurveillance, les voilà remontés jusqu'à ces 13 suspects. Leur profil démontre une tendance déjà relevée par les magistrats marseillais au sein du narco banditisme local, à savoir des femmes et des personnes très jeunes. Pour ce type de fait, certains auraient à peine 15 ans. Même s'ils seraient liés à la DZ Mafia, on ne s'oriente pas cette fois-ci vers un contentieux avec leurs rivaux du clan Yoda, puisque leur cible serait un ancien patron du point de deal marseillais de la Castellane, dont l'ex-associé est lui tombé sous les balles dans les quartiers nord de la ville l'an dernier, le soir de Noël. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Les élus corps sont-ils ouverts la boîte de Pandore, comme l'estime Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains?
L'autonomie évoquée lundi dans l'accord avec le ministère de l'Intérieur fait rêver certains partis autonomistes et pourrait bien donner des idées à d'autres régions, Jacques Serret.
À commencer par la Bretagne. Le président de région, Loïc Chesnais-Girard, ancien membre du Parti Socialiste, réitère sa demande, celle de modifier l'article 73 de la Constitution.
C'est une proposition bretonne qui est pour la République des territoires, pour faire en sorte que les collectivités territoriales soient capables de proposer des organisations qui leur sont propres pour tenir compte de leur situation locale. La Bretagne n'est pas la Corse, l'Île-de-France n'est pas la Picardie, et les montagnes ne sont pas les plaines. Et à chaque fois, il faut des adaptations aux textes nationaux. Le texte national seul ne suffit pas.
Cela ne fragiliserait pas l'unité de la République, assure l'élu breton. Pour Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée et président du groupe Les Républicains, c'est tout l'inverse. La boîte de Pandore est ouverte, regrette-t-il.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Vous avez peut-être déjà posé vos congés d'été. Reste maintenant à réserver les billets de train. Eh bien, le site de la SNCF est ouvert depuis ce matin 6h. À noter que vous allez peut-être avoir des difficultés si vous souhaitez réserver au guichet, dans la gare ou par téléphone. Le syndicat Sudrail a appelé à la grève aujourd'hui pour dénoncer les conditions de travail des agents. Elle reprend du service, au contraire, et sort son 9e album. Norah Jones, 50 millions d'albums vendus, 20 ans de carrière, sort donc Vision, 12 chansons à savourer comme une douce balade printanière, Marie Jiquel.
Un album aux sonorités qui rappelle ce soleil printanier aux rayons timides. À l'image de ce soleil encore engourdi, Norah Jones l'a écrit dans son lit, dans son bain, face au mur. Des mélodies apparues dans ses douces rêveries, des visions, d'où le titre de cet album.
Ces chansons venaient à mon esprit dans ces instants entre l'éveil et l'endormissement.
Fidèle à son univers jazzy, aux arrangements musicaux minimalistes, piano, quelques cuivres et une légère batterie.
On était dans le studio de mon producteur, seul. C'était comme un petit univers.
Norah Jones nous offre avec grâce et simplicité un avant-goût de l'été. Elle chante ses envies de danser, son côté sauvage, parfois romantique, et prouve qu'elle n'a pas changé.
Du service culture d'Europe 1, il faut dire que Norah Jones, c'est vraiment intemporel. Un petit mot de football avec la reprise de la Coupe de France ce soir. Le PSG affronte Nice à 21h en quart de finale.
Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. Allez, dans un instant, Europe 1 vous emmène au Venezuela. Bon, il n'y avait aucun suspense, mais son président Nicolas Maduro, qui est au pouvoir depuis 11 ans déjà, briguera bien un troisième mandat au mois de juillet. Le regard de Vincent Hervouet dans un instant.
Bon réveil avec Europe 1, il est 7h38. Oui.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour commencer la journée, peut-être sur la route du travail. Il est 7h41, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique, on se penchera sur l'écriture constitutionnelle, pardonnez-moi, promise par Emmanuel Macron à l'Assemblée de Corse. Faut-il s'en réjouir ou pas? Vincent Trémollet de Villers nous dira ce qu'il en pense. Le Club Culture d'Europe 1 Matin dans un instant. Le livre du jour avec Nicolas Carré. Bonjour Nicolas.
Bonjour, un livre givré qui s'appelle Cold Case.
Ah, en ce lendemain de perte de Madeleine Chapsal qui nous a quittés hier à l'âge de 102 ans. Vous avez vu ou pas ça dans l'actu,
mais
Madeleine
Chapsal?
Oui,
mais j'étais dit qu'il fallait que j'en fasse un petit classique bientôt. Là.
Bah, vous avez 3 minutes là pour nous dire un petit peu. Voilà. Les sorties ciné également, nous sommes mercredi. Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour, moi j'ai Laurie. Deux comédies regagnants et Les Rois de la Piste.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri.
Vincent au Venezuela, Nicolas Maduro est candidat à un troisième mandat.
Oui, officiellement, 4 millions de militants bolivariens le supplient de rester au pouvoir. Le chiffre est bidon, mais 4 millions, c'est deux fois plus que les participants aux primaires de l'opposition qui ont plébiscité la candidature de Maria Corina Machado. Le régime veut faire croire qu'il est populaire, la révolution continue. Maduro est désigné, il sera élu, les Occidentaux siffleront le tricheur, le reste du monde le félicitera. Il aura le triomphe modeste, il dénoncera les traîtres de l'opposition que le peuple vomit et il rendra hommage à Hugo Chavez. Le scrutin a été fixé le jour de son anniversaire, le 28 juillet. Nicolas Maduro est le grand ordonnateur de ce culte de la personnalité posthume. Il singe son prédécesseur et c'est habile, car il se cache derrière la statue du commandante. On ne prend pas au tragique un tyran qui est représenté à la télé par Super Bigodé, Super Moustache, le héros de dessin animé qui défend Caracas contre les Yankees et les saboteurs. Chavez a passé 13 ans au pouvoir. Maduro, lui, y est depuis 11 ans et va rempiler pour 4 ans supplémentaires. Indestructible, c'est le slogan de Super Bigodé. Et il faut l'être pour avoir tenu, malgré la ruine, la fuite de 8 millions de Vénézuéliens à l'étranger, la mise en quarantaine, 60 pays ayant reconnu un opposant en exil comme président par intérim. Ce qui est dur, c'est durer. Maduro est... Muy duro.
Alors, il renie l'accord passé avec l'opposition.
Oui, accord longuement négocié par la Norvège et conclu en octobre à la Barbade. Il fixe la présidentielle au second semestre. Il prévoit surtout qu'on puisse contester son inéligibilité devant la justice. C'était fait exprès pour que l'opposante en chef puisse concourir alors qu'elle a été déchue de ses droits civiques pour 15 ans. Joe Biden a applaudi l'accord de la Barbade. Enfin un succès à sa politique de la main tendue. Ça marche mieux avec les chavistes qu'avec les talibans ou les mollahs iraniens. Depuis la guerre en Ukraine, Washington a recommencé à acheter du pétrole à Caracas et Biden a tout fait pour normaliser les relations. Il a levé les sanctions, il a fait libérer les deux neveux de la première dame. On dit la première combattante à Caracas. Condamnés, ils avaient été condamnés pour trafic de drogue. Et puis il a aussi renvoyé à Caracas l'homme de paille de Maduro qui était en prison pour blanchiment. Et puis il a protesté, à peine protesté, quand Caracas a prétendu annexer les deux tiers du pays voisin pour mettre la main sur le pétrole. Vu de Washington, le Guyana, visiblement, n'est pas l'Ukraine. Vraiment, Nicolas Maduro a profité de ses 6 mois de détente comme de grandes vacances.
Et puis vous nous dites, Vincent, qu'il a mis bas les masques.
Oui, la Cour suprême, dont il a désigné tous les juges, a rejeté la candidature de l'opposition. Il a fixé le scrutin le plus tôt possible pour prendre l'adversaire de vitesse. Et le régime a aussi dénoncé une énième tentative de coup d'État imaginaire et raflé des suspects. Il a bien sûr accusé l'opposition de mettre en péril les accords de la Barbade. Ça, c'est le béaba de la dialectique. C'est simple, c'est brutal, c'est Maduro. Il est sûr d'être applaudi à Moscou et à La Havane, à Pékin et à Pyongyang, à Téhéran comme à Ankara. Il restera président à vie et l'international des tyrans ne le lâchera pas. L'armée et la police non plus, car... Tout cela risque d'être pendu au réverbère si le régime tombe. Ces gens-là jouent leur peau. Il ne suffit pas de les gronder pour espérer les intimider, ni d'élections pour s'en débarrasser. Répétez après moi, Nicolas, président à vie.
Nicolas, président à vie, donc. Merci beaucoup, Vincent Hervouet. Je me fais toujours embarquer.
Nicolas dans... Caro, évidemment.
Voilà. Bien entendu.
Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci, Vincent.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Alors en attendant d'être présidente, Nicolas Caro ce matin, un polar, on dirait bien, non?
On dirait, mais en fait non, pas vraiment. Ça s'appelle Cold Case pourtant, mais c'est à entendre au sens littéral si on veut. C'est pas très clair parce qu'il s'agit d'un livre d'Alexandre Labruf, un auteur inclassable et génial. Il avait cartonné avec son premier Chronique d'une station-service, un pompiste qui racontait son quotidien et qui regardait les clients passer. Ensuite, il a publié Un hiver à Wuhan, parce qu'il était à Wuhan. Pendant le Covid,
je m'en souviens.
Quand ça a commencé même, puis Wonderland sur la folie, c'est souvent très drôle au milieu du drame, et là il ne déroge pas à la règle, même si donc a priori il n'y aurait pas de quoi rire, et il s'agit d'une enquête sur un fait divers.
Oui, un cold case, un dossier froid donc.
Froid c'est sûr, complètement givré même. À Toronto en 1971, un homme est retrouvé mort de froid dans un local poubelle, cheveux glacés, lèvres gercées, une larme gelée sur son visage, écrit Alexandre Labruf. Le local poubelle c'est celui d'un hôpital psychiatrique, et le corps est découvert par les gardiens de l'hôpital qui appellent la police, qui arrive, qui met le bandeau « Police line, do not cross ». En fait, il s'agit d'un fugueur de l'hôpital Sang-Yung, un Coréen qui avait débarqué au Canada quelques temps plus tôt.
Mais donc l'affaire est résolue, hein ?
Oui et non, ça ne s'est sans doute pas passé exactement comme ça. C'est Alexandre Labruf qui invente pour l'instant, c'est qu'il avait peu d'éléments au départ. C'est sa compagne qui un jour au petit-déj lui sort « J'ai un oncle congelé ». Hein ? Un oncle congelé ? Non, un oncle, Sang-Yung. Après 7 ans de vie commune, elle lui raconte ça au petit-déj comme ça à 20 ans. Cet oncle, décidément, avait débarqué avec son frère, le père de la compagne de l'auteur, et un autre oncle encore, plus jeune, Sang-Yung, a été embarqué par la police canadienne pendant une crise de rage dans la rue, mais on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Considéré comme fou, il a été emmené dans cet hôpital, d'où il s'est donc échappé. Elle ne veut pas tellement en dire plus, elle n'en sait pas tellement plus d'ailleurs. Alors Alexandre Labruf décide d'enquêter. Il retrace l'histoire de la famille de sa compagne. On part en Corée, au Canada. C'est un peu foutraque parfois, maniaque aussi. Mais il tient sa ligne et on le suit. Il y a des moments drôles et géniaux parce qu'il y a du génie chez Labruf. Et bien sûr, c'est parfois complètement givré.
Voilà, un oncle bien incarné. J'avais envie de la faire depuis tout à l'heure.
Je voyais sourire, je savais que vous aviez une.
Jolie.
Voilà, bon, excusez-moi. Cold Case, donc.
Super, en tout cas.
Le livre de Alexandre Labruf, hein, c'est ça, oui. Oui, je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Vincent. Vincent Labruf. Non, c'est un autre vin. Alexandre Labruf, Colquet, c'est chez Vertical. Merci Nicolas Caro. Cinéma, Laurie Choleva, on commence avec une comédie grinçante.
Et oui, heureux gagnant, comédie à sketch de Maxime Govard et Romain Chouet. Bah, c'est vrai qu'on a tous déjà rêvé de gagner au loto.
Ah bah
vous
feriez
quoi, Dimitri, Anissa?
Bonne question.
On voyage, moi je voyage.
Oui, je paye mes dettes, je rembourse
vrai.
Toutes mes dettes.
La vraie question, c'est est-ce que ça rend vraiment heureux ? C'est tout le thème de cette comédie noire dans laquelle on suit plusieurs histoires de gagnants maudits au loto de l'aidante d'un EHPAD qui récupère le ticket de son patient mort d'une attaque cardiaque, au terroriste qui gagne l'auto juste avant de commettre un attentat, ou encore un couple criblé de dettes joué par Audrey Lamy et Fabrice Eboué qui se rend compte qu'il a gagné 10 minutes avant que le ticket ne soit plus valide.
Bienvenue au tirage Top Million de ce jeudi. Et oui, nous avons un grand gagnant ce soir.
On a gagné 60 millions.
Ben non, c'est pas notre ticket.
Et voilà, être riche révèle la vraie nature des gens et les réalisateurs s'en amusent. C'est grinçant et très très drôle.
Voilà, heureux gagnant donc pour le premier film. Et puis Fanny Ardant en centre de Madalton aussi.
Dans une comédie policière rocambolesque, Les Rois de la Piste, c'est le nouveau film de Thierry Cliffa. Elle joue cette chef de famille de petits truands qui élève ses fils, joués par Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchel, dans le culte de l'escroquerie.
Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective.
Je vous en ai, Ginorman ? C'est ma mère.
Jérémy se planquerait dans le Cotentin.
S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore tableau.
T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici, hein.
Alors, j'ai beaucoup aimé ce film. Le ton est complètement différent. C'est une famille de bras cassés, complètement dysfonctionnelle, mais très attachante. Et puis, tout le monde se déchire dans cette famille. Tout le monde se dit ses quatre vérités, mais il y a surtout énormément d'amour. C'est aussi un film sur la quête identitaire, le besoin d'aller au bout de ses rêves. Nicolas Duvauchel, je ne peux pas vous en dire plus, mais il livre une performance absolument impressionnante, exactement. Et comme on ne l'a jamais vu, je ne sais pas si on le reverra comme ça un jour.
Non, je ne pense
voilà.
pas. Ouais.
Avec un ton, hein, je le disais, vraiment différent. Et puis, des scènes cultes. Je pense à une entre Fanny Ardant et Laetitia Doche, complètement ivre dans le hall d'un hôtel, ça vaut le détour.
Voilà, et Fanny Ardant qui était l'invitée de Culture Média hier sur Europe 1, hein, interview complètement déjantée. Enfin, je vous invite
elle est géniale.
Voilà, vous en saurez plus sur Fanny Ardant que sur le mystère Nicolas Duvauchel de ce film, parce qu'on en parle pendant une demi-heure dans l'entretien avec Fanny Ardant, mais on ne sait toujours pas.
Ça serait gâché toute la surprise de ce film. Laurie, on vous retrouve samedi de 19h à 20h sur Europe 1 pour l'émission Cinéma d'Europe 1 qui s'appelle Clap, évidemment, et vous recevrez Claudia Tagbo pour le film Karaoké.
Exactement. Merci.
Merci Laurie, merci Nicolas, merci Vincent. Dans un instant, l'édito politique sur Europe 1. Mais d'abord, à 7h51, le journal permanent, Nina Pavan.
Philippe de Gaulle, le fils aîné du général de Gaulle, est mort cette nuit à 102 ans. Lui aussi engagé dans l'armée. Il s'était battu dès 1940 pour libérer la France avant de devenir sénateur de Paris. Son fils, Pierre de Gaulle, salue ce matin un père formidable et un grand Français. Emmanuel Macron s'exprime demain soir, 20h, en direct à la télévision. Le président reviendra sur l'accord de soutien à Kiev validé par les députés hier, une aide militaire sur 10 ans et un soutien de Paris pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Sciences Po Paris, secouée par la polémique depuis hier, un amphithéâtre rebaptisé Gaza a été occupé par une manifestation pro-palestinienne et des étudiants juifs ont été interdits d'entrer. La ministre en charge de l'égalité homme-femme, Aurore Berger, dénonce une action antisémite.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
bonjour
tous.
Vincent,
Gérald Darmanin et les élus de l'Assemblée de Corse ont donc trouvé un accord sur une écriture constitutionnelle qui ouvre la voie à un statut d'autonomie pour l'île de Beauté. Alors c'est une étape importante dans un long processus. Est-ce que vous vous en réjouissez ?
Alors pas du tout, mon cher Dimitri, mais alors pas du tout. C'est même un nouveau motif d'inquiétude dans le climat de fébrilité que le pouvoir nous impose depuis quelques semaines. Escalade verbale sur l'Ukraine, grand galop sociétal et maintenant dislocation programmée de notre unité territoriale et de l'indivisibilité de la République française. Je vous rappelle que cette histoire a commencé il y a 2 ans sur une double faute de l'État. D'abord une grave défaillance dans la maison centrale d'Arles qui a permis à un islamiste d'étouffer pendant plusieurs minutes, Ivan Colonna. Faiblesse de l'État ensuite, puisque pour répondre à la violence des manifestations de soutien à celui qui avait été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, Emmanuel Macron n'a rien trouvé d'autre que de proposer un statut d'autonomie à la Corse. Une réponse institutionnelle pour faire oublier un meurtre en prison et les manifestations qu'il provoque, c'est pour le moins brouillon. Mais comme à Notre-Dame-des-Landes, le président de la République a eu peur et l'État a reculé. Depuis, le processus s'est enclenché et les questions institutionnelles ont remplacé les urgences économiques et sociales qui, en Corse, pourtant, sont nombreuses.
Alors par exemple,
cela fait 60 ans que l'État a promis l'installation d'un CHU dans chaque région de France, et 60 ans après, il n'y a toujours pas de CHU en Corse. Par exemple, le trafic de drogue gangrène l'île et abîme toute la jeunesse. Par exemple, la hausse des prix de l'immobilier liée au tourisme empêche les jeunes de se loger là où ils ont grandi, phénomène que l'on observe aussi sur toute la côte atlantique. Par exemple, le prix des billets d'avion et l'absence totale de fiabilité de la Corsica Ferries, la compagnie qui relie la Corse au continent par bateau, transforme tout passage de la mer en expédition coûteuse. Ce sont des problèmes très concrets qui n'exigent aucune réforme institutionnelle et qu'une réforme institutionnelle ne résoudra absolument pas.
Mais pour en venir à l'autonomie, c'est une revendication malgré tout chez beaucoup de Corses.
Oui, en effet, les autonomistes ont gagné les élections régionales, mais Marine Le Pen était majoritaire à l'élection présidentielle sur l'île de Beauté et elle ne promet pas l'autonomie de la Corse. Vous savez, la Corse est une île très politique, très complexe. Il ne faudrait pas oublier non plus qu'elle est portée par un héritage historique consubstantiel à l'histoire de France. Jean-Jacques Rousseau a rédigé la première constitution de la Corse. Pascal Paoli a joué un rôle important pendant la Révolution. La Corse a donné à la France un empereur, Napoléon, et son premier président de la République, Napoléon III. Lors de la guerre de 1914, près de 15 000 soldats venus de l'île de Beauté sont morts au combat. Ce qui rapportait à la population de l'île est énorme et tous les villages se sont couverts alors de monuments aux morts. À Bastia, en 1938, des héros se sont élevés contre Mussolini en prêtant le serment, j'ouvre les guillemets, de vivre et mourir en français. En 1943, la Corse a été le premier territoire libéré de l'occupant allemand par l'armée française. En Indochine, en Algérie, les Corses ont joué un rôle décisif dans ce qui était alors la France au-delà des mers. Alors oui, aujourd'hui, il existe une défiance qui tourne parfois à la haine de certains Corses contre la France, comme il existe un mépris à peine voilé de certains Parisiens contre les Corses. La vérité est que l'île de Beauté donne un effet de loupe au mal français. Absence de perspective pour sa jeunesse, recul important des services publics, empilement insensé de normes, tourment identitaire provoqué par l'immigration massive et notamment ses effets culturels, religieux et sécuritaires. Quand la France va mal, la Corse s'éloigne et l'on peut inverser la formule. Si la Corse s'éloigne, c'est que la France se désintègre. La preuve, la Bretagne demande à son tour de larguer les amarres.
Quand la France va mal, la Corse s'éloigne. Je retiendrai cette formule de votre édito sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, cet autre mal français, la situation des finances publiques. La Cour des comptes réclame 50 milliards d'euros d'économies et son premier président Pierre Moscovici estime que la question fiscale n'est plus taboue. Autrement dit, les hausses d'impôts. Alors qu'en fera Bercy ? On y reviendra. Merci beaucoup Vincent, bonne journée à vous.
Il est 7h56, merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes le mercredi 13 13 mars et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un collègue, d'un ami, Thomas Hill, qui présente tous les jours Culture Média de 9h30 à 11h sur Europe 1. On l'embrasse.
Et mon petit doigt me dit qu'il soufflera ses bougies tout à l'heure,
oh,
l'ami Thomas.
Soyez à l'écoute.
Nous fêtons ce jour également Saint-Rodrigue de Cordoue, dans l'Espagne du 9e siècle, occupé par les musulmans. Il refuse d'apostasier et c'est son propre frère converti à l'islam qu'il conduit chez le juge. Rodrigue est alors condamné à la décapitation. Bon réveil avec Europe 1 dans un quart d'heure face à Sonia Mabrouk. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Rassemblement National, Sébastien Chenu. Il est bientôt 8h. Europe 1. Nous sommes le mercredi 13 mars, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
C'est l'information de la matinée, la disparition de l'amiral Philippe de Gaulle, fils du général de Gaulle, compagnon de la Libération, ancien sénateur de Paris. Il était âgé de 102 ans. Son portrait, les premières réactions dès le début de ce journal. Scène de guerre, trafic de drogue. Trois jours après une fusillade de plus d'une heure, un quartier de Rennes n'arrive plus à fermer l'œil. Des bandes font la loi, les habitants vivent dans la terreur. Reportage Europe 1 dans un instant. Emmanuel Macron, lui, sera à la télévision demain soir pour évoquer une nouvelle fois l'Ukraine. Large majorité hier à l'Assemblée en faveur de l'aide militaire de la France à Kiev. Le Rassemblement national s'est abstenu. Alors que faut-il en déduire ? Élément de réponse dans un instant. Et puis ce dérapage antisémite à Sciences Po Paris. Hier, un amphithéâtre occupé par des étudiants pro-palestiniens et des étudiants juifs interdits de cours. 8h10, juste après ce journal, votre invité Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le vice-président de l'Assemblée et député RN du Nord, Sébastien Chenu, au programme. Vous en avait parlé Dimitri, le vote sur l'aide à l'Ukraine, les dérapages antisémites à Sciences Po et puis Aya Nakamura, une interview un peu djadja peut-être, à voir.
Tout à l'heure.
Europe 1.
Oh bah vous nous direz ce que ça veut dire djadja, parce que ça a un sens. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'une des familles les plus illustres de France est en deuil ce matin et avec elle, tout le pays, le fils unique du général de Gaulle. L'amiral Philippe de Gaulle s'est éteint cette nuit à l'âge de 102 ans. Sénateur de Paris pendant 18 ans, il avait surtout été l'un des compagnons de la Libération aux côtés de son père Arthur de Laborde.
Oui, né le 28 décembre 1921 à Paris, élève au collège Stanislas, Philippe de Gaulle s'oriente très vite vers une carrière militaire et entre en 1940 à l'école navale. Le 18 juin, il est en route vers Londres avec sa mère et ses sœurs et manque l'appel de son père. À 19 ans, il rejoint alors immédiatement les forces françaises libres, débarque en Normandie parmi les premiers et participe à la sanglante bataille d'Alsace et à la libération de Paris. C'est là qu'il glane ses premières médailles. Il sert ensuite en Indochine, au Maroc, en Algérie, gravit un à un les échelons de la hiérarchie pour aboutir juste avant la fin de sa carrière au grade d'amiral et au poste d'inspecteur général de la marine. Une fois à la retraite, Philippe de Gaulle se lance en politique. En 1986, il est élu sénateur RPR de Paris. Il le restera jusqu'en 2006, passant sous la bannière UMP au moment de sa création en 2002.
Arthur de Laborde du service politique d'Europe 1. L'émotion est vive pour tous ceux qui ont connu l'amiral, pour tous ceux qui lui sont reconnaissants pour ses engagements et pour ses proches, comme Jacques Vendroux, journaliste sportif à Europe 1, mais aussi neveu du général de Gaulle. Il a confié son émotion à Christophe Bordet.
Il a vécu, c'est vrai, quelque part dans l'ombre de son père. Il n'en a pas vraiment souffert. C'est-à-dire qu'il est très, très respectueux de la carrière, évidemment, de son père. Il était très respectueux de la famille. Il était très famille, voilà. Il s'occupait beaucoup de ses enfants. Il s'occupait beaucoup de ses petits-enfants. Il n'a pas revendiqué sans arrêt « Je suis le fils du général de Gaulle ». Je le voyais... Il allait faire ses courses. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était complètement abordable. Je sais très bien aussi que Brigitte et Emmanuel Macron demandaient aussi de ses nouvelles régulièrement. Et puis c'est vrai que le pouvoir politique actuel, eh bien, ne l'a pas laissé tomber. Je pense surtout à la famille Chirac et je pense surtout à la famille Macron et même la famille Sarkozy.
L'hommage de Jacques Vendroux à l'amiral Philippe de Gaulle, fils aîné du général de Gaulle. On reviendra bien sûr sur son décès tout au long de la journée sur Europe 1.
8h04, il faut que justice et police se serrent les coudes contre la délinquance. C'est en somme ce qu'a écrit Éric Dupond-Moretti, le garde de Sceaux à tous les parquets de France.
Oui, alors que la police a intensifié ces 4 derniers mois les opérations Place Nette, le ministre de la Justice veut s'assurer s'assurer que le reste de la machine judiciaire sera à la hauteur.
Et oui, car l'enjeu est de taille, parce que les trafics de drogue et règlements de compte menacent chaque jour la sécurité publique et la tranquillité des habitants.
Exemple à Rennes, dans le quartier du Blône, on vit la peur au ventre depuis la fusillade en pleine rue samedi. Pendant une heure, des balles qui traversent les murs et les fenêtres pour se loger dans les cuisines et les salons. Pour nombre de riverains traumatisés, il est désormais impératif de déménager. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
Les balles avec une mitraillette, ça fait comme ça. Ils étaient tous cagoulés, attirés partout. Hein.
Maria Elena n'en revient toujours pas de sa fenêtre. Elle a tout vu et surtout tout entendu, des cris, des rafales pendant plus d'une heure.
J'ai très peur parce qu'on dirait la guerre. C'est incroyable.
Et vous avez appelé la police ?
Je vais pas appeler. J'ai peur aussi.
La peur des représailles, comme souvent dans ce quartier gangréné par le trafic de stupéfiants. Sauf que cette fois, de la vie de tous, un cap a été franchi avec cette fusillade ultra-violente, celle de trop pour ces habitants qui désormais cherchent à déménager.
Ça y est, on a fait la demande. Mais c'est un peu une partie de notre vie qui va s'en aller. Hein. Mais on peut pas rester, non. Parce qu'il y avait des killers qui avaient envahi l'appartement en dessous de chez nous. On ne dormait plus. Comme ils font leur trafic jour et nuit, 7 jours sur 7, c'était infernal.
Et vous allez déménager ?
Moi, oui. Le plus possible, je ne veux pas rester ici parce que ce qui arrive dernièrement, ça fait peur.
Et ça laisse des traces aussi. On dénombre une vingtaine d'impacts de balles sur les entrées d'immeubles, parfois même dans des appartements. Les enquêteurs ont retrouvé 32 douilles de différents calibres, des armes de guerre pour la plupart.
Charles Guyard.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06.
Emmanuel Macron à la télévision, demain soir, interview concentrée essentiellement sur le soutien de la France à l'Ukraine.
Prise de parole légitimée hier soir par le vote symbolique de l'Assemblée nationale qui a approuvé à une large majorité l'accord bilatéral signé avec Kiev. 372 pour, 99 contre. Les députés du Rassemblement national, eux, se sont abstenus à 4 mois des élections européennes. Et alors que les sondages donnent une confortable avance à Jordan Bardella, le RN veut cliver le moins possible Alexandre Chauveau.
Oui, nouvelle démonstration hier à l'Assemblée face à l'objectif assumé du gouvernement de mettre le RN en porte-à-faux sur ses rapports avec la Russie. Marine Le Pen se lève, rend hommage à Alexei Navalny et salue la résistance ukrainienne.
Aux centaines de milliers de morts et de blessés causés par cette épouvantable guerre, aux millions de déplacés, aux populations civiles qui la subissent encore chaque jour, à la nation ukrainienne agressée, nous devons notre respect et notre soutien.
Rassurer le plus possible, voilà l'objectif du RN, convaincu que son arrivée au pouvoir n'est plus qu'une question de temps. Pour cela, le parti mesure la portée de chaque décision. Vote favorable sur la loi immigration ou la constitutionnalisation de l'IVG, quitte à décevoir un électorat conservateur. Mais cette stratégie du risque minimum est assumée. Nous ne sommes plus dans une logique de clivage, mais bien dans un esprit de rassemblement, confie-t-on au sommet du parti. Tactique payante jusqu'ici dans les sondages, malgré la concurrence de Reconquête, soucieux de cibler un électorat davantage en quête de radicalité.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
L'activisme pro-palestinien s'intensifie dans les milieux étudiants. La preuve à Sciences Po hier, un groupe de jeunes militants a occupé un amphithéâtre hier matin.
Oui, mobilisation en soutien à Gaza. Au relent antisémite, des étudiants de confession juive ont été empêchés d'entrer dans la salle, Wilfried de Villers.
Oui, un blocus où des étudiants brandissent des drapeaux palestiniens, d'autres scandent des slogans pro-Palestine. Et quand cette jeune femme, membre de l'Union des étudiants juifs de France, veut entrer dans l'amphithéâtre, l'accès lui est tout simplement refusé. Salomé, la présidente de la section Sciences Po de l'UEJF, raconte.
Des personnes qui ont été jugées comme sionistes, on leur a interdit l'entrée dans l'amphithéâtre. Des étudiants, eux aussi reconnus et identifiés comme sionistes ou juifs, ont été pris à partie par des militants de ce groupe. Donc c'est quand même très problématique que les étudiants soient bloqués pour leur appartenance politique ou religieuse.
Après le blocus, lors d'une mobilisation en face de l'école, d'autres étudiants juifs sont pris à partie, selon Salomé, qui déplore un climat délétère au sein de l'établissement.
C'est vraiment le point culminant en fait, de plusieurs semaines de tensions. Pour les étudiants juifs, qui sont souvent en plus pointés du doigt, comme des représentants de la politique israélienne, on ne se sent pas en sécurité dans ce propre établissement, parce qu'on sait que les gens nous regardent de travers. On est tout seul pour des travaux de groupe, parce que les gens ne veulent plus travailler avec nous.
Alerté de la situation, Sciences Po Paris condamne dans un communiqué les pratiques et les actions utilisées, sans évoquer clairement un acte antisémite.
Wilfried de Villers.
Et puis cet espoir pour les malades atteints de l'une des maladies du siècle, la dépression, elle affecte 3 millions de Français.
Oui, le protoxyde d'azote ou gaz hilarant pourrait soigner les patients. Une expérience inédite a été menée en ce sens au CHU de Tours, Yasmina Katou.
Oui, 30 femmes ont participé à cette étude, dont 20 souffraient d'une dépression résistante au traitement classique. Les patientes ont été exposées pendant une heure au méopa, un gaz hilarant utilisé par les médecins, notamment pour apaiser les enfants avant un examen. Près de la moitié des patientes ont constaté une nette diminution des symptômes dépressifs, explique Thomas Demit qui a mené l'étude. Il est professeur de psychiatrie au CHU de Tours.
Moi, dans ma pratique clinique, puisque je commence de plus en plus à l'utiliser, ce que j'observe, il y a un effet thérapeutique qui dure au moins 3 mois. Parfois, et j'ai vu encore une patiente hier là, qui me disait que l'effet commençait à diminuer, mais ça faisait plus d'un an et demi qu'elle était en rémission totale de ses symptômes dépressifs après une seule exposition au méopa, en fait.
Si le traitement fonctionne, c'est parce qu'il bloque certaines connexions dans le cerveau.
Quand on a un épisode dépressif souvent assez sévère, on a une tendance à voir son cerveau qui tourne en boucle sur les choses extrêmement négatives. Eh bien, ça a un effet à éteindre, finalement, ce réseau cérébral des ruminations.
Grâce à cette découverte, le gaz hilarant pourrait être utilisé dans les services de psychiatrie dès l'année prochaine.
Yasmina Katou.
Merci Fanny Marceau. Dans un instant sur Europe 1, Sébastien Chenu est l'invité de Sonia Mabrouk.
7h, 9h,
Europe 1 Matin. Tout de suite sur Europe 1, Sébastien Chenu est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Et merci de votre présence. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes le député RN du Nord. Avant d'évoquer tous les sujets d'actualité, nous avons appris ce matin la disparition de l'amiral Philippe de Gaulle, fils unique du général de Gaulle. Ça a été l'un des compagnons de la libération et d'ailleurs il a participé à la libération de l'Assemblée nationale. Quelle est votre réaction? Quel hommage vous lui rendez ce matin?
Philippe de Gaulle, c'est un grand Français. C'est un grand Français qui a mis sa vie au service de notre pays, au service de la France et des Français. C'était aussi, il faut le dire, un grand artiste. Il a été un grand militaire, il a été un homme politique, il était aussi un grand artiste et peut-être que c'est ce qui lui permettait de sortir de l'ombre de ce général auquel il ressemblait tant, du général de Gaulle. Il disait d'ailleurs, j'ai lu ça, j'aurais volontiers prêté un peu de ma longévité à mon père parce qu'il était aussi probablement depuis toujours et toute sa vie pétri d'admiration pour le général de Gaulle. Et donc c'est probablement compliqué de mener sa propre vie. Il l'a fait au service de la France, mais aussi en explorant des champs différents, et notamment ces champs artistiques que je veux souligner ce matin.
L'amiral de Gaulle, effectivement, qui est mort centenaire à 102 ans, puis on se souvient des mémoires qui ont eu un très grand succès. Justement, en parlant du général de Gaulle, hier au Parlement, lors du vote sur l'aide de la France à l'Ukraine, Sébastien Chenu, Gabriel Attal a beaucoup fait référence au général de Gaulle, mais pour vous cibler, pour dénoncer votre action et votre politique, il a dit que le 18 juin, l'appel du 18 juin, vous l'avez fait à l'envers à chaque fois. Hein. Et il vous a carrément qualifié de suppôt de Poutine. Que lui répondez-vous ce matin?
Moi, je conseillerais au Premier ministre de rester dans la décence. Gabriel Attal nous avait habitué à un autre registre, mais on a bien compris que, évidemment, aujourd'hui, pour éviter de parler d'un bilan, probablement pour éviter aussi de parler d'un projet, parce qu'à part répéter Europe, 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 comme les fameux cabris qui sautaient décrits par le général de Gaulle, le Premier ministre, sa candidate totalement inconnue, n'ont rien à proposer aux Français et surtout ont honte probablement de leur bilan. Donc ces outrances qui ne sont pas au niveau de ce qu'on peut attendre d'un beau débat sur ce que doit être l'Europe demain, eh bien je conseille au Premier ministre de les remiser. Je conseille au Premier ministre de se calmer.
De se calmer. Mais est-ce que l'Europe demain, c'est aussi l'Ukraine? Voici ce qu'a dit Gabriel Attal. Si l'Ukraine perd, nous perdons aussi. Tourner le dos à l'Ukraine, c'est tourner le dos à nos valeurs, a-t-il lancé, affirmant que l'effondrement de l'Ukraine, Sébastien Chenier, aurait des conséquences cataclysmiques sur le quotidien des Français qui nous écoutent et nous regardent ce matin d'un point de vue économique. Est-ce que ce qu'il dit pour vous est faux?
Oui, mais les conséquences, nous les avons déjà. Enfin, la crise agricole que nous connaissons, la crise énergétique que les Français connaissent, ce sont les conséquences du conflit en Ukraine. Donc, je ne sais pas ce que Gabriel Attal imagine d'autre, à part, et on va pouvoir peut-être en parler, l'idée d'envoyer des troupes qui seraient effectivement cataclysmiques, mais les conséquences que vivent les Français, nous les avons déjà. Moi, je crois, et avec Marine Le Pen, nous avons pensé qu'il était temps de mettre des limites à ce président sans limite. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu voter résolution qui nous était proposée.
Abstention d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce matin pourquoi vous êtes abstenu? Parce que vous êtes contre toute aide supplémentaire à l'Ukraine. Vous êtes contre son adhésion à l'UE. Alors pourquoi ne pas voter contre en cohérence?
Parce que nous n'avons pas voté contre parce que nous savons très bien l'utilisation politique qui en aurait été faite. C'est-à-dire que Gabriel Attal nous aurait associé de parfaite mauvaise foi et parce que c'est l'unique argument qu'ils ont.
Il le fait quand même, avec votre abstention.
Ça montre bien que c'était leur dessein et que c'était la démonstration grotesque qu'ils voulaient faire. Nous souhaitons soutenir l'Ukraine. Mais nous sommes en désaccord sur un certain nombre de conditions qui existent dans le texte.
Vous avez toujours voté contre toute aide.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au Parlement européen, on a soutenu les aides financières à chaque fois. Lorsqu'on nous a demandé, nos parlementaires ont soutenu les aides financières. Donc, si vous voulez, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de dispositions. Par exemple, dans le texte que Emmanuel Macron a négocié d'ailleurs, cet accord dans le dos des parlementaires, il y a des lignes rouges que nous ne souhaitons pas franchir.
Lesquelles ? Parce qu'il n'est pas question de troupes au sol dans
cet
accord bilatéral.
Mais pas uniquement celle-ci. La première, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
Alors pourquoi vous ne voulez pas ? C'est intéressant.
Parce que c'est la ruine immédiate de pans entiers de notre économie.
Il y a d'autres pays qui viennent d'entrer.
Mais écoutez, regardez ce qui se passe du côté de l'agriculture. Mmh. Eh bien, l'adhésion à l'Ukraine, d'abord, je crois qu'il y a un coût qui a été évalué à 180 milliards d'euros. Est-ce qu'on est obligé de tirer une balle dans le pied à nos agriculteurs en acceptant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne? Et puis, il y a celle qui est à l'OTAN aussi, l'adhésion à l'OTAN. Et là, ça pose un problème militaire. Parce que l'OTAN, c'est une provocation, en réalité, vis-à-vis de la Russie. Jamais Poutine n'acceptera de voir des militaires, des structures militaires aux portes de son pays.
Ce sont vos lignes rouges. Mais bien sûr, si vous étiez au pouvoir en ce moment, si vous aviez les manettes, Sébastien Chenu, qu'est-ce que vous auriez proposé à Poutine? De s'asseoir autour de la table, là, et puis de négocier les concessions territoriales
de l'Ukraine? D'abord, nous aurions proposé de continuer à soutenir l'Ukraine, probablement autrement. Vous savez, il y a ceux qui parlent, comme Gabriel Attal, et puis il y a ceux qui agissent. Nous, par exemple, lorsqu'il s'agit d'accueillir des Ukrainiens, je pense à Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui est allé lui-même, après 22 heures de car, chercher des Ukrainiens à la frontière.
Ça ne les fera pas gagner sur le terrain militaire.
Certes, accueillir, aider, épauler médicalement, humanitairement, tout ça, nous le faisons et nous avons toujours été là pour le faire. Et puis, j'allais dire, la demande d'initiative de paix que nous demandons, nous souhaitons qu'Emmanuel Macron l'entende.
Mais la paix aujourd'hui est considérée en tout cas par la majorité comme une reddition, comme un esprit munichois. Être pacifique, c'est être poutiniste. Que lui répondez-vous?
Mais je pense que tout ça est fait simplement pour apeurer les Français. Ils veulent faire peur aux Français parce que nous sommes dans l'utilisation d'un fait grave, un conflit armé au moment d'une campagne électorale française. Et ils utilisent ce fait grave, ce qui est assez indécent vis-à-vis des Ukrainiens, pour faire de la politique politicienne. Nous pensons que, d'ailleurs on nous a dit pendant des années, mais l'Union européenne c'est la paix, c'est la garantie de la paix. Alors prenons des initiatives de paix. Même le pape demande qu'on puisse prendre des initiatives de paix. Quand on demande des cessez-le-feu à Gaza, pourquoi on ne les demande pas?
Vous le demandez d'ailleurs aussi en Jean-Luc Ukraine. Mélenchon a dit cela hier. Il a interpellé sur les réseaux sociaux le Premier ministre en déplorant un deux poids, deux mesures entre Israël et la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison? Et est-ce que vous demandez ce cessez-le-feu à Gaza?
Il y a des problèmes d'otages d'abord avec le Hamas. Un cessez-le-feu ne peut intervenir de ce côté-là de la planète qu'à partir du moment où on libère les otages. On ne peut pas commencer par un cessez-le-feu alors qu'il y a des otages, dont des otages français, trois otages français qui sont aux mains du Hamas, organisation terroriste. Monsieur Mélenchon devrait plutôt nous expliquer pourquoi il prend Rima Hassan, militante pro-palestinienne, violente, sur sa liste aux élections européennes.
Pro-palestinienne, c'est pas un sujet. Est-ce qu'elle est pro-palestinienne?
Violente, c'est-à-dire soutien du Hamas.
Justement, en parlant de soutien, mais là je parle de la Palestine et de Gaza. À Sciences Po Paris, des étudiantes occupaient un amphithéâtre qu'ils ont renommé Gaza. Et surtout, j'ajoute, l'association UEFJ, Union des étudiants juifs de France, a dénoncé, Sébastien Chenu, des actions antisémites et des actes antisémites à l'encontre d'étudiants de confession juive avec des slogans, je les cite, « Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste ». Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui à Sciences Po et à quoi ressemble Sciences Po Paris ?
C'est à la fois le combat contre l'antisémitisme qui se joue là-bas aussi, parce que lorsqu'on réalise qu'en France, dans des amphithéâtres de ce qui est censé former une élite intellectuelle de notre pays, on interdit à des étudiants d'entrer parce que dits sionistes sur la base quoi, de leur nom, non pas de leurs engagements éventuels, mais de leur nom, alors je pense que c'est très grave. Il faut des sanctions et on attend que du ministère qu'il se bouge, mais c'est aussi une certaine forme de totalitarisme. Empêcher du débat à Sciences Po, empêcher de l'expression à Sciences Po, on est à l'opposé de ce que notre pays devrait produire.
Vous dites,
Sciences Po est sous la patte et sous le joug de l'islamo-gauchiste depuis très longtemps.
Alors, est-ce que vous faites confiance, par exemple, justement, à la direction pour agir? Voici le communiqué de Sciences Po, on va le voir, communiqué de condamnation, et il est vrai qu'il n'y a pas un mot relatif à l'antisémitisme pour caractériser les actes, ce qui est important quand même.
Ils sont faibles, ils cherchent à ménager la chèvre et le chou, la direction de Sciences Po qui a déjà eu pas mal de problèmes sur d'autres sujets, devrait plier bagage. Ces gens sont incompétents, sont incapables de former l'élite française. Ils sont simplement sous le joug d'un certain islamo-gauchisme, comme il en existe beaucoup dans l'université française, malheureusement.
Sébastien Chenu, la campagne des européennes bat déjà son plein. Vos adversaires attaquent Jordan Bardella. Sur son bilan au Parlement, mis à part les attaques dont nous avons parlé tout à l'heure, notamment sur sa présence à Strasbourg, voici une phrase entre autres qui a été dite sur notre antenne. Il ne vote rien. À chaque fois qu'il y a un vote important, il n'est jamais là. Il a tout le temps piscine. Je me demande si c'est un député ou un maître nageur, disait ici à votre place il y a quelques jours Sylvain Maillard de Renaissance. Mais
vous voyez le niveau des attaques. Jordan Bardella, il suffit d'aller sur le site du Parlement européen, a 93% je crois de mémoire d'assiduité au Parlement,
aux séances plénières du Parlement européen. Vous voyez ce qu'ils vous disent, présence mais pas amendement déposé. Oui, il est très faible par rapport à Manon Aubry.
Lorsque vous êtes un leader de l'opposition, le but, ce n'est pas de déposer des milliers d'amendements qui ne seront jamais votés, jamais examinés et qui n'aboutiront pas. C'est de porter une parole politique, c'est de porter un combat politique. Et Jordan Bardella a été classé comme l'un des leaders politiques européens les plus influents. Eh bien, je crois qu'on a besoin plutôt de gens influents plutôt que de gens qui grattent des amendements dans les placards du Parlement européen.
Les placards du Parlement européen, voulez avoir quand même beaucoup de députés.
Non, mais je veux dire, dans les soupentes du Parlement européen, dont on ne fait rien, des milliers d'amendements, des kilomètres d'amendements, ça a servi à quoi que Manon Aubry dépose 30 000 amendements? Il y a quelque chose qui a bougé, il y a une virgule, ça a protégé nos industries, nos ouvriers?
En tous les cas, influent, dites-vous, Jordan Bardella. Il ne participera pas au premier débat télévisé sur Public Sénat ce jeudi. Il sera remplacé par Thierry Mariani. Alors, est-ce que c'est une volonté de préserver votre tête de liste? Alors, la majorité, elle se frotte les mains. Elle dit, oulala, on nous envoie le stagiaire du Kremlin.
Bon, écoutez, c'est beaucoup de mépris vis-à-vis de Thierry Mariani, qui a été ministre, qui est député européen, qui, je crois, connaît particulièrement bien ces sujets-là. Il va y avoir une foultitude de débats. Nous avons trois mois pour faire campagne.
Auxquels tous les candidats participent. Hein.
Donc, Jordan Bardella va être vu partout sur les plateaux. Pas de souci, laissons chacun prendre ses marques et essayons d'élever plutôt le débat, parce que si c'est simplement pour entendre une bordée d'insultes ou les approximations de Madame Hayer, qui visiblement n'a pas grand-chose à proposer, à part répéter Europe, 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 eh bien, je pense qu'effectivement, il faut des débats de qualité. Ils vont arriver. Je suis sûr qu'il y en aura sur votre antenne, d'ailleurs.
On l'espère, mais si, par exemple, pour Thierry Mariani, je ne remets pas du tout en cause, je vous dis ce que dit la majorité, il parle, Thierry Mariani, d'une responsabilité partagée entre la Russie et l'Ukraine sur ce qui se passe en ce moment. Vous
Thierry Mariani, non, il y a des agresseurs, des agressés. Thierry Mariani est sur la ligne.
Vous n'êtes pas sur la même ligne.
Non, mais je pense qu'il y a des agresseurs et des agressés. L'agresseur, c'est la Russie. Les agressés, c'est l'Ukraine. Et nous leur devons cette solidarité minimale.
Depuis qu'on a appris que Aya Nakamura allait inaugurer la soirée de lancement des Jeux Olympiques, Sébastien Chenu, il y a une avalanche de réactions et des attaques contre la chanteuse. Rachida Dati met en garde contre tout racisme. Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, a affirmé hier qu'Aya Nakamura ne chante pas en français. Est-ce que c'est votre avis?
Moi, j'ai regardé les paroles, je les ai amenées, et c'est vrai que lorsque je lis « Il n'y a pas moyen, dja-dja, je suis pas ta catin, dja-dja, genre en Katchana baby, tu dettes ça », ce n'est pas du français académique. En tous les cas, elle prend des libertés avec la langue française, et pourquoi pas? Lorsqu'on est artiste, on a ce droit, mais moi, j'aurais aimé plutôt que de, là aussi, de créer des fausses polémiques. L'œuvre d'Anaïa Kamoura ne me parle pas, sincèrement, comme j'imagine, elle ne
ça,
parle
pas. Ça, c'est les
pas.
Goûts et les couleurs
exactement.
Dans la vie. Moi, je vous pose une autre question.
Mais,
est-ce qu'il y a des relents racistes dans les attaques
Est-ce qu'il y ait une artiste de couleur noire, il n'y a aucun problème. Mais on a le sentiment que c'est un peu des provocations de petits bourgeois. Madame Oudéa Castéra met ses enfants à Stanislas. Est-ce qu'elle aimerait qu'il parle comme ça, ses enfants? Est-ce qu'en fait, ces gens-là, qui nous font la publicité d'Anaïa Kamoura, aimeraient que leurs enfants s'expriment comme ça? Probablement pas. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de snobisme derrière ça. Moi, je préfère des artistes qui unissent les Français plutôt que ceux qui les divisent.
Est-ce qu'elle provoque des unions?
Il suffit de demander, parce que ça crée des polémiques.
Si vous étiez au pouvoir et vous deviez choisir un artiste, une artiste pour le lancement de cette soirée, est-ce qu'il y a un artiste incontestable?
Oui, non, mais il y a beaucoup d'artistes. Vous savez, les Français, je crois qu'il y a eu un classement, mais de Lara Fabian à Florent Pagny.
Quelle différence avec Aya Nakamura?
Mais parce que ce sont les goûts et les couleurs. Je veux dire, Anaïa Kamoura maltraite probablement la langue française. Elle a beaucoup de succès. Par ailleurs, il faut lui reconnaître ça, elle représente quelque chose. On ne lui fait pas de procès parce que c'est une femme de couleur, ce serait absolument grotesque, mais c'est vrai qu'en réalité, elle martyrise la langue française et qu'on a plutôt envie d'avoir des gens qui honorent notre langue et notre pays derrière lui.
Simplement, est-ce que vous condamnez ce qui lui est dit? Par exemple, j'ai vu dans le meeting du parti d'Éric Zemmour, elle a été huée, et puis il y a une banderole brandie par des dizaines de militants en face de la mairie de Paris où il y a écrit « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ».
Je déteste ça. Moi, je déteste ces attaques bas de gamme. Anaya Kamura est une artiste qui rencontre un grand succès. Moi, je suis pas client. Encore une fois, je vous dis, je trouve qu'elle utilise mal, à mes yeux, la langue française, qu'elle ne valorise pas notre pays. C'est pour ça que je trouve.
Alors, Emmanuel Macron a fait ce choix.
Parce que je vous dis, c'est une façon de se donner une bonne conscience de petit bourgeois et aussi les provocations d'Emmanuel Macron. Il sait que ça va créer une polémique, gagner, bingo, c'est ce qui est en train de se passer. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des dizaines de milliards d'euros d'économies que le gouvernement va infliger, jusqu'aux 50 milliards recommandés d'ailleurs par le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Donc pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'action du gouvernement alors que les Français vivent difficilement.
Ce sont des sujets très très importants. Et pour finir sur une autre note, vous avez entendu peut-être la ministre des Sports qui a chanté le tube de Aya Nakamura, mais je pense que vous ne le ferez pas au Jadar.
Non, je ne le ferai pas parce que chacun son registre, mais encore une fois, je ne suis pas persuadé que Mme Oudéa Castéra, au collège Stanislas, où elle scolarise ses enfants, elle les scolarise pour qu'ils parlent de cette façon-là.
Bon, puisqu'on a des nouveaux mots, si je puis dire, est-ce que vous savez ce que c'est Jadja?
Non, mais vous allez me l'apprendre.
Menteur.
D'accord.
Voilà, parfois il y en a dans le milieu politique et j'espère que ça n'a pas été le cas ce matin. Merci.
Merci
Sébastien
Chenu,
c'était votre grande interview, je vous dis à très bientôt.
Merci.
Merci Sonia Mabrouk et Sébastien Chenu. On vous retrouve dans un instant en compagnie de nos signatures du mercredi 8h27 sur Europe 1.
7h, 9h. Europe 1 Matin.
Avant de retrouver Gaspard Proust sur Europe 1 à 8h30, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Victor Pourchet.
Un nom si lourd qu'il portait avec brio, l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général de Gaulle, est mort cette nuit à l'âge de 102 ans. Sa vie, celle d'un militaire débarqué sur les plages du Cotentin en 1944, puis d'un sénateur de Paris jusqu'en 2004. Son fils Pierre salue la mémoire d'un père formidable et d'un grand Français. Mettre des limites à un président sans limite. Les mots sur Europe 1 du vice-président de l'Assemblée nationale RN Sébastien Chenu, réaction à l'abstention de son parti lors de l'approbation du soutien à l'Ukraine par les députés hier. Et puis à vos calendriers, la SNCF a ouvert les réservations des billets de train pour les vacances d'été.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco.
Et le temps, Anissa Dadi. Donc après les brouillards, le soleil arrive dans le sud, pointe son nez.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on avait comme une petite carence en vitamine D là ces dernières semaines. Hein. On avait besoin un peu besoin de luminosité et de soleil. Bah, tant mieux, tout s'arrange cet après-midi. Le soleil va prendre vraiment plus de place ce matin. Il brille des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur en passant par le golfe du Lion et la Corse. Attention aux brouillards, vous en parliez. Ils sont en train de se dissiper. Des brouillards sur le sud-ouest de la vallée de la Garonne jusqu'à la Vendée. Alors ce matin, c'est très gris sur la moitié nord. Cet après-midi, le soleil arrive jusqu'en Bretagne, Normandie. C'est vraiment sur le quart nord-est que les nuages vont rester très présents, très épais, qu'ils viendront masquer le soleil entre les Hauts-de-France et l'Alsace en passant par la Bourgogne, partout ailleurs. C'est très agréable et ça y est, on passe la barre des 20 degrés. Le printemps arrive, 21 à Carcassonne, 20 degrés à Nîmes et Biarritz, 18 pour Marseille, Angoulême, Toulouse et Bordeaux, 15 degrés à Paris et Lille et 12 la minimale pour Boulogne-sur-Mer.
Merci Anissa Dadi. Il est 8h32 sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 dans un quart d'heure. Le zapping politique signé Dimitri Vernet. Avec Emmanuel Ducrot, on reviendra sur ce qui s'est passé à Sciences Po hier, ces étudiants bloquant, rebaptisant Gaza un amphithéâtre et en interdisant l'accès à des étudiants juifs. On va voir ça. La revue de presse d'Europe 1 arrive aussi dans 5 minutes. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour Dimitri.
Dans les journaux ce matin, dites-nous.
Alors la mort de Philippe de Gaulle est intervenue un petit peu tard hein, pour les journaux et pourtant je vais évoquer une période qui aurait pu parler à la famille de Gaulle.
Et à l'amiral Philippe de Gaulle, donc, qui nous a quittés cette nuit. C'est l'une des informations de la matinée. À tout de suite, Olivier Delagarde. Mais pour l'heure, 8h33, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour, Gaspard.
Bonjour.
Alors, Gaspard, difficile de passer à côté. C'est un peu le sujet chaud du moment. Vous souhaitiez réagir sur la situation en Ukraine et les demandes de Volodymyr Zelensky.
Oui, c'est vraiment le truc de saison. Autant Édouard Philippe, tu vois, qu'il n'a pas encore fait sa mue de printemps. Il est encore sur son pelage d'hiver. Autant Zelensky, il a repris du poil de la bête. Il fait le métronome de la campagne européenne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous trouvez pas qu'il a pris du muscle, Zelensky? Depuis le début de la guerre.
Oui, effectivement.
Ah,
oui.
Ah, au début de la guerre, tu sais, il faisait petit comédien du cours Florent. Plus ça va, plus il ressemble à un videur de boîte de nuit. Parce que d'habitude, bon, attends, en temps de guerre, les gens, ils ont tendance à s'affiner. Et lui, tu sens que son régime, c'est créatine, développé, couché. On n'est pas à l'abri que dans la prochaine vidéo de demande de soutien, il la fasse dans un petit Marcel, Gold Gym, et qu'il nous dise « Donnez, s'il vous plaît, Ukraine, munitions, soldats,
Créatine, protéine, milkshake, vanille, chocolat, coco.
On sent que c'est pas trop votre truc, Zelensky.
Bah, je vais vous le dire, Dimitri, c'est rien d'autre que de la jalousie entre humoristes. Hein.
Comment ça?
Bah, entre humoristes, c'est un milieu plein de jalousie, de rancœur. C'est pour ça que c'est vrai qu'on va pas se mentir, mais Zelensky comme Hollande, moi, je peux pas les encadrer. Tu vois, ces deux-là, ils se sont hissés au plus haut, alors que moi, j'ai vu des sketchs de Zelensky. Franchement, à côté, Jean-Marie Bigard, c'est un sociétaire de l'Académie française. Hein. C'est de la jalousie, mon Dimitri. Est-ce qu'on aurait eu le courage, nous, de. Est-ce qu'on aurait fait comme le youtubeur à la Lada de Kiev? Non, je sais pas.
On sent un petit fond de jalousie, quand même. Enfin, je sais pas si c'est le même fond de jalousie, mais l'opposition a reproché au chef de l'État d'avoir dit qu'il n'y avait aucune limite au soutien à l'Ukraine et qu'on ne pouvait rien exclure.
Alors là, pour le coup, moi, je suis derrière le président.
Ah oui?
Ouais, moi, à chaque fois que je vois le président de la République se déguiser en chef de guerre, je me fais cueillir. Dès qu'Emmanuel Macron se déguise dans un truc, je sais pas, que ce soit en aviateur, en cosmonaute, en pompier, en infirmière, moi, je suis toujours client. En plus, s'il ajoute à ça son ardu en même temps qui s'embarrasse jamais de contradictions...
Comment ça, c'est-à-dire?
Bah, il passe son temps à dire « Non, mais il y en a marre de tous ces gens qui surfent sur la peur. Les Français, ils ont besoin de projets fédérateurs, d'optimisme. » Résultat, il leur parle de quoi? IVG, euthanasie, guerre nucléaire. Tu sais, c'est Rambo qui débarque avec une mitraillette dans les mains dans un club de yoga et qui dit « Bonjour, le feng shui, c'est moi !» D'ailleurs, ça doit être quelque chose hein, lorsque le président fait une séance de méditation.
Ah, hein. Vous pensez qu'il pratique la méditation?
Ah, je suis sûr, il a inventé le truc. Après la cohérence cardiaque, l'incohérence nerveuse, il se met en position du lotus. Je respire fort, je me concentre et je sens une boule d'énergie qui traverse le chakra du canon César avant de remonter gentiment vers le chakra de l'ogive nucléaire.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette convocation des chefs de parti à l'Élysée pour leur parler justement de cette potentielle guerre avec la Russie? Beaucoup de participants ont dit qu'ils sont arrivés inquiets, ils sont sortis encore plus inquiets.
Vous avez de la chance parce qu'à cette réunion-là, j'avais mes petites souris, enfin je veux dire mes gros surmulots, et scoop européen. Ah. Je peux vous dire comment ça s'est passé.
Ah bah racontez-nous alors.
Ah bah c'était pas beau à voir. Quand ils sont entrés dans le salon de l'Élysée, là, les Bompard, Faure, Ciotti, Bardella, ils ont vu un mec en imperméable, penché sur une carte militaire avec la main droite qui tremblait. Il marmonnait des trucs incompréhensibles. Wo ist mein Panzerdivision, das Leicité? Tout en jetant parfois une peluche, les mignons, à Blondie, son berger allemand. Quand il a vu que les visiteurs étaient là, il s'est retourné vers eux, il leur a dit « Vous inquiétez pas les gars, en ce moment, la météo est trop pourrie pour qu'on tente une percée sur Mariupol par les Ardennes. »
Vous êtes un peu mythomane, Gaspard.
En effet.
Oui. Racontez-nous si c'est vraiment dit, Gaspard, on veut savoir.
Effectivement, ce qui s'est dit, c'est ça que vous voulez savoir, oui. Vous le voulez, oui. Je vous le donne. Alors effectivement, il était pas en imperméable, il parlait pas allemand, mais il y avait une grande table sur laquelle était posée la carte de l'Ukraine. Et tu vois, lui, il était là, il dissertait, tu vois, il était là. Donc vous voyez, là, si on met deux canons sur le front entre Avdivka, Pavlivka, Moussaka et Vodka, qu'on pilonne en mode je t'embrouille, en faisant voler trois avions dans le ciel avec la banderole « Hollande dégage », bah, il y a un moyen de déstabiliser les Russes dans les tranchées, faire une petite percée vers Koursk. Et Koursk, il paraît que c'est sympa, Koursk. Il y a plein de brocans, de petits restos de blini, spécialité de silure radioactif. C'est un poisson, tu éteins la lumière, le poisson est phosphorescent, effet garanti pour anniversaire, baptême, bar mitzvah. Et là, bon, t'as quand même le mec de l'état-major, enfin, qui dit, président, tout ça, c'est des idées vraiment super, c'est juste que des obus, on n'en a pas des masses. Tu vois, là-bas, ça tire 10 000 obus par jour, nous, on en fabrique 3 000 par mois. Alors là, le président, il réagit direct. Hein. Non mais pardon, vous connaissez rien à la guerre. Moi, j'ai lu des traités sur l'art de la guerre. Je l'ai lu, moi, l'intégrale d'Astérix. Et si vous aviez lu Astérix et la Zizanie, vous auriez entendu parler de la guerre psychologique. L'important, c'est pas avoir du zobu, mais de faire croire comme si qu'on en avait du zobu. Et deux obus par jour, ça va être largement suffisant pour impressionner Vladimir, je le connais. Fort en gueule, mes petits bras. Alors le général lui dit, président, si ça dérape vraiment. Et l'autre, écoutez, si ça dérape, on va pas tortiller. On mobilisera notre sous-marin, là, je ne sais plus lequel qui n'est pas en réparation, là, le conquérant, le submersible, le frénétique ou l'arc-en-ciel. Enfin bref, on va leur lancer le zobu nucléaire vers un champ devant Moscou, vous allez voir. On va leur exploser un tracteur, un poulailler, il va vite se calmer l'ours russe.
Vous y croyez que c'est possible de gagner la guerre contre la Russie, vous?
Ah non, mais quand même juste rappeler au président que la France vient de se faire chasser du Mali, quoi. Donc, militairement parlant... En toute objectivité, se faire chasser du Mali, c'est comme voir les Bleus se faire battre au foot 30-0 par les îles Féroé. Alors, elle est pas belle la France?
Merci pour ces confidences de surmulot, Gaspard Proust. Vous avez vu le chien de Gabriel Attal au fait? Il s'appelle Volta, je crois.
Volta, non, tout noir.
C'est quoi? C'est un truc qui saute là?
Pas
le border, ça saute aussi. Mais
je ne sais plus.
Jack Russell?
Non,
vous dirai. C'est bien plus gros. C'est plus gros et plus poilu.
Voilà.
Plus gros, plus poilu.
Voilà.
Ah
bon,
oui.
On se dit à demain. Ben non, restez avec
dis-nous
nous.
Dis-nous en plus, Anissa.
Voilà. Allez, restez avec nous pour la revue de presse d'Olivier Delagarde. Arrive dans un instant.
Bah, j'ai déjà lu les journaux. Enfin bon, ok.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. La mort de Philippe de Gaulle est intervenue trop tard pour les journaux ce matin.
Oui, rien bien sûr dans les éditions de ce matin, mais les portraits et les hommages commencent à fleurir sur les sites de vos quotidiens. Fils d'eux, On imagine volontiers que Philippe de Gaulle n'aurait guère apprécié d'être présenté de la sorte, écrit par exemple Ouest France, et il aurait eu raison tant sa vie commençait en des temps héroïques, à tout pour faire oublier qu'il est le fils de son célèbre père. Vos journaux vont avoir l'occasion d'y revenir toute la journée et dans les éditions de demain, parce que la disparition de Philippe, c'est un peu la dernière page du gaullisme qui se tourne aujourd'hui.
Alors, tout autre chose, avec l'évocation d'une époque qu'aurait presque pu connaître la famille de Gaulle.
La cigarette jaillit des dessous de la moustache, il se met des signatures pour ampliation conforme au bas d'arrêté ministériel. Le chef entra et posa cette question bien simple. « Je viens savoir de vous, monsieur, si la direction des dons et legs est une administration de l'État ou une maison de tolérance ?» En 1891, Charles de Gaulle avait un an et Georges Courteline publiait « Messieurs les ronds de cuir », une satire mettant en lumière un travers bien français, le culte de son administration absurde, tatillonne et à l'époque fumante. 133 ans plus tard, on ne les avait plus ronds de cuir, mais l'état profond. Et ces messieurs n'ont guère changé, sauf pour la cigarette. Et c'est avec ses armes à lui qu'Emmanuel Macron s'est attaqué au Moloch, hier, comme l'appelle l'opinion. Cette administration sans visage, sans âme, et qui personnifie peut-être une facette du mal français. « Je ne vous lâcherai pas !» leur a déclaré le président de la République, raconte Renaud Honoré dans Les Échos. Installé dans les fauteuils molletonnés d'un grand auditorium ministériel, les quelques 300 cadres de l'État ont dû sentir une légère secousse, poursuit-il. Légère. Le chef de l'État a tenté de les secouer. La grande crise des démocraties occidentales est avant tout une crise de l'efficacité de l'action publique, a-t-il martelé. Mais dans son fort intérieur, Emmanuel Macron n'avait-il pas le sentiment de parler dans le vide quand il leur déclara « On dit quelque chose, puis après, à chaque étage, on met des freins, et à la fin, là où vous avez mis 100 en force, on arrive à 5 ou 10 », a-t-il soupiré.
Et en son temps, Nicolas Sarkozy dit pratiquement la même phrase. Pourtant, il y a des agents qui ne chôment pas.
Oui, le corps des contrôleurs de la SNCF, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui consacre ses trois premières pages à ces contrôleurs qui jouent les cow-boys dans les trains, intransigeants, à cheval sur le règlement, prêts à dégainer une amende à la moindre occasion, écrit Victor Tassel. Sur les réseaux sociaux, les témoignages fleurissent. Dernier en date, celui de ce voyageur verbalisé à hauteur de 270 euros pour avoir échangé sa place de seconde, d'un commun accord avec un autre voyageur en première, ou cet autre taxé pour avoir été surpris, une cigarette à la main sur un quai venteux et désert. Excel ou système, ce que nous apprend en tout cas le Parisien, c'est que les contrôleurs touchent une commission à chaque amende.
Tiens.
Et d'autant plus importante si elle est réglée immédiatement. Dans les TER, la prime peut ainsi rapporter aux agents les plus tatillons plusieurs centaines d'euros par mois.
Ah bah c'est bon à savoir. À la une également ce matin, Olivier Delagarde, la Corse qui a donc fait un pas vers l'autonomie.
La route est tracée, annonce en gros titre Corse ce matin. La Corse, ailée par les élus corses et le ministre de l'Intérieur, valide l'octroi d'un pouvoir législatif pour l'île. L'accord a eu lieu dans le fumoir de Beauvau, indique Jean-Philippe Scapula. C'est d'ailleurs une information, il y a encore des ministères où l'on peut fumer. On ne nous précise pas si l'accord a été conclu dans les volutes de Havane ou de Gauloise, mais cela fait en tout cas tousser le Figaro. La droite sénatoriale est ulcérée, explique le journal. Je suis abasourdi de la légèreté avec laquelle l'exécutif prend la question corse, s'est indigné Bruno Retailleau. Mais on va terminer avec Paris Match ce matin, qui exceptionnellement sort aujourd'hui, parce qu'il vous réserve deux scoops qu'il ne pouvait pas attendre. Les amateurs de Potin People se délecteront de savoir que Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco, file le parfait amour avec l'écrivain Nicolas Mathieu, observateur attentif du déclin de la classe ouvrière en Lorraine. Monaco, ça va le changer. Mais Match publie surtout l'interview de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, qui elle aussi publie un livre où elle expose sa thèse de l'affaire. Rappelons que son frère est suspecté d'avoir trucidé sa femme et ses quatre enfants en 2011, avant de s'être volatilisé. Eh bien, Christine Dupont de Ligonnès a refait toute l'enquête, y a découvert plein d'incohérences. Conclusion pour elle, non seulement son frère serait toujours vivant, mais sa famille aussi. Les corps retrouvés et très vite incinérés n'étaient pas les leurs. Il y aurait eu une opération des services secrets pour les faire disparaître afin de les protéger tous, car agent lui-même, Xavier Dupont de Ligonnès, aurait été démasqué par des narcotrafiquants. Pour tout vous dire, cela paraît quand même un peu abracadabrantesque, ou comme aurait dit le général de Gaulle, assez fumeux.
Imaginez simplement qu'elle ait raison, Christine Dupont de Ligonnès. Mais quelle histoire. Plus de 10 ans après, on continue d'en parler. Qu'est-ce que vous avez dit, Gaspard?
On va retrouver Elvis Presley, alors, du coup. J'imagine qu'ils sont ensemble aux Bahamas.
Avec Alain Colas.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Attends, on met le sponsor, je vous donne la parole, Pascal, tout de suite.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto. C'est le compte pro qu'il vous faut.
Oui, réagir à cette histoire.
Oui, parce qu'hier, on était avec Stéphane Goldenstein, qui est l'avocat de Christine Dupont de Ligonnès. Il est resté 20 minutes avec nous, et vous pouvez d'ailleurs réécouter l'émission en podcast. Au bout de 20 minutes, il nous a retourné le cerveau.
Ben oui.
Parce que quand il vous explique que l'autopsie d'Agnès, qui mesure 1m67, elle sort à 1m72, effectivement, il est rare que tu grandisses après la mort.
Oui, ça n'est pas banal.
Quand il t'explique que le bol alimentaire est retrouvé dans 2 des enfants sur 4, alors qu'ils auraient tous été tués 15 jours avant, tu t'interroges. Et c'est le principe, en fait, du complotiste, parfois. C'est qu'il trouve toujours des éléments. L'élément le plus fort, c'est l'ADN. L'ADN a identifié les corps. Donc, il n'y a même pas de discussion.
Oui.
Puisque oui, mais Romain Puertolas, lui, dans son livre qui est sorti juste avant, dit que Dupont de Ligonnès est aux États-Unis dans une ferme. Donc, on peut tous les croire.
Non, mais fait. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est autre chose. Qu'il soit vivant, c'est autre chose.
On va pas avoir le temps de refaire l'enquête.
C'est autre chose. Mais vous voyez, c'est ça, c'est le principe. Ouais. Il te retourne le cerveau.
Vous voulez qu'on en parle ce matin, 11h-13h, avec les auditeurs?
Oui, on était avec nous. Alors, tout le monde a un avis.
Oui.
Évidemment, et bien sûr, c'est quoi? Tout le monde a un avis, c'est idiot d'ailleurs.
Qu'est-ce qui retient votre attention? De quoi voulez-vous parler avec les auditeurs ce matin?
L'amiral de Gaulle, c'est la France. Effectivement, et vous en avez parlé. L'amiral de Gaulle, qui était aux Invalides, Catherine Ney avait fait un très joli portrait de lui.
Absolument.
D'ailleurs, dans le journal du dimanche. Peut-être sera-t-elle avec nous d'ailleurs, Catherine. C'est le fils du général, quand même. C'est un morceau de la Croix de Lorraine. Donc il y a beaucoup d'émotions ce matin. Il avait 102 ans. Et on pourra évidemment évoquer cela. La polémique prend de l'ampleur avec les propos de Marion Maréchal. Aya Nakamura, qui ne chante pas français, on en parlera également. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste. Voilà ce qui a été dit et ce qui se passe à Sciences Po. Et j'ai envie de dire que ce qui est étonnant là-dedans, c'est pas tant la manifestation que la réaction. Réaction du ministre, réaction du directeur de Sciences Po, personne ne réagit vraiment. C'est juste un acte antisémite. Vous imaginez si c'était un groupuscule d'extrême droite qui avait fait ça à Sciences Po, on parlerait déjà de la nuit des longs couteaux ce matin.
Ah oui, c'est pas la symétrie.
Donc, c'est toujours pareil, deux poids, deux mesures. Voilà les sujets du jour.
01 80 20 39 21 pour participer à Pascal Pro et vous tous les jours de 11h à 13h.
Et on vous retrouve dans 10 minutes, Pascal, pour l'heure des pros sur Europe 1. Il est 8h50. Emmanuel Ducrot, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors justement, on l'évoquait avec Pascal à l'instant, à Sciences Po hier, cette manifestation pro-palestinienne qui provoque un tollé politique.
Hier avait lieu donc une journée de mobilisation universitaire européenne pour la Palestine et c'est à ce prétexte qu'une soixantaine de militants pro-palestiniens ont investi un amphithéâtre mythique de Sciences Po à Paris, l'amphithéâtre Boutmy, rebaptisé aussitôt amphithéâtre Gaza. L'occupation, ce sont les mots de ces militants, a duré 4 heures, elle a rassemblé jusqu'à 150 personnes.
Et donc il y a eu des dérapages, hein.
Photos et témoignages ahurissants de cette matinée, les militants ont tenu colloque, visage masqué sur fond de drapeaux palestiniens et de keffiyeh, ambiance d'un autre temps. Les étudiants juifs de l'UEJF ont été verbalement pris à partie avec des mots qualifiés de discriminatoires et accusatoires par la direction de l'établissement. Une membre de ce syndicat d'étudiants juifs a été refoulée au motif qu'elle était sioniste, visiblement son nom l'indique. Sioniste, c'est le mot des antisémites pour ne pas dire juif et tout cela est très grave.
Bon, des lignes rouges ont été franchies de toute évidence. Hein.
Oui, là c'est la direction de Sciences Po qui le rappelle. La manifestation n'a pas été déclarée, encore moins autorisée, ce qui la place totalement hors des clous. Elle n'était en outre endossée par personne officiellement puisque les tracts distribués ne sont pas signés. Les règles du pluralisme et de la liberté d'expression académique ont été bafouées, des propos indignes ont été tenus, des ostracisations prononcées. C'est un lamentable spectacle pour une école qui revendique l'excellence.
Alors la direction de Sciences Po a fini par réagir. Hein.
Ah oui, il a fallu pour ça une visite courroucée de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, dans l'après-midi, laquelle a jugé intolérable et choquant que des élèves puissent subir la moindre discrimination, la moindre incitation à la haine. Les mots sont tout de même forts. Après cela, le communiqué officiel de Sciences Po paraît, disons, elliptique et éthéré. Il condamne l'action et les pratiques utilisées, regrette les propos discriminatoires tenus à l'encontre d'une association étudiante en particulier, le tout en apesanteur, sans mentionner ni fait précis, ni contexte, ni Gaza, ni étudiants juifs. La direction se défend de minimiser, elle rappelle qu'elle doit peser les mots, ne pas utiliser par exemple le terme antisémitisme, qui est une qualification pénale selon elle. Et elle urge maintenant une commission de discipline à sanctionner. Cette précaution à nommer les choses a valu à Sciences Po une seconde salve de critiques.
Mais quelle est la morale de l'histoire ?
Que cette histoire doit servir d'électrochoc. Ce qu'il s'est passé hier dans une de nos plus belles écoles ressemble à ce que vivent les campus américains depuis les pogroms du 7 octobre. Une libération de la parole et des actes antisémites dissimulés derrière le cache-sexe de l'antisionisme. Les autorités académiques doivent vite ramener la raison, la mesure, l'amour du débat ouvert parmi les étudiants de Sciences Po, qu'on ait à y subir l'intimidation, l'autoritarisme, la confiscation des lieux et de la parole, c'est une faillite de nos élites universitaires, une nouvelle défaite des Lumières.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot, merci Emmanuel.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Et voici l'heure du zapping politique Europe 1, bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. Je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français, Slava Ukraini. Oui, j'aurais pu revenir sur ce vote à l'Assemblée nationale hier approuvant la stratégie d'aide de la France à l'Ukraine, mais je suis désolé, on va passer à toute autre chose ce matin, car nos politiques étaient sacrément en forme. Pour commencer, on reste dans l'hémicycle avec la ministre chargée de l'enfance et de la jeunesse, Sarah El Haïry.
La protection de l'enfance mérite mieux. Ne jetez pas l'opprobre sur l'ensemble des professionnels.
L'opprobre au lieu de l'opprobe. Bon, petite erreur, vous allez me dire, ça arrive. Oui, je suis d'accord, une fois, pas deux.
Mais ne jetez pas l'opprobre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés.
Une honte. Ouais. Une honte.
Allez, on passe du coq à l'ail. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron et Gabriel Attal étaient devant les cadres de la haute fonction publique. Des cadres qui, on peut le dire, se sont fait enguirlander par Bibi, enfin, par le président.
Les gens qui me disent, ils déconnectés, comme on dit parfois. C'est ça la réalité. Alors, c'est Bibi qui paye, mais c'est notre travail collectif.
Mais le plus drôle, sincèrement, ça reste cette anecdote du Premier ministre Gabriel Attal. Je soupçonne le père Castor de Matignon d'avoir un chouïa exagéré. Tendez bien l'oreille.
J'ai en mémoire avec émotion ce déplacement à Washington, en face de l'équivalent du directeur général des finances publiques américain. Il avait sur son smartphone des captures d'écran du site impots.gouv.fr qui me montraient avec des étoiles dans les yeux et même les larmes aux yeux, en m'expliquant que c'est ce dont il rêvait pour les Américains.
Oh, what is it? Impots.gouv.fr. Oh, wow. Amazing French touch. I have larmes aux yeux. Bon, allez, on termine par la nouvelle polémique sur les JO. Oui, le président souhaiterait qu'Aya Nakamura chante du Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture. Une aberration pour beaucoup, notamment pour Marion Maréchal sur BFM TV.
Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle, on veut représenter, pardon, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français. Parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français.
Une information que nous avons vérifiée sur Europe 1, enfin, que Pascal Pro et Jacques Vendroux ont vérifié.
Oula.
Oh Dja-Dja, oh Dja-Dja, y a pas moyen Dja-Dja, je suis pas ta catin Dja-Dja, genre en Katshada Babi, tu d'aides ça.
Bon, effectivement, pas sûr que tous ces mots soient dans le dictionnaire.
C'est culte ça.
Mais peu importe, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, adore Aya. Elle était sur France 5.
Dja-Dja, Dja-Dja. J'aime bien Dja-Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore.
Non,
Oui, oui, là, on touche le fond. Voici un bon résumé de la politique française en 2024.
Voilà la grande Edith pour conclure ce zapping politique
forcément.
Europe. C'était extraordinaire, le Gabriel Attal.
Ah, c'est fou. Oui. Quelle anecdote, j'ai envie
Parce
de dire.
Les Français ont les larmes aux yeux quand ils vont sur impots.gouv.fr, mais c'est pas forcément de
j'en
joie.
J'en pleure tous les jours.
Oui, ce n'est pas, voilà. Voilà, taux de prélèvement aux États-Unis 25%, la France 45%. Voilà.
Oh là là.
8h56, dans une petite demi-heure, Culture Média sur Europe 1, nos invités ce matin, Anissa Dadi.
Natacha Polony qui va vous présenter la nouvelle formule du journal Marianne, et puis Joël Dicker pour son nouveau roman, l'écrivain suisse.
Voilà. Allez, l'heure des pros dans un instant. Bonne journée.